السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، toujours dans des villages etc. نعم، je suis sûr que ça existe dans des familles où le père marie même le garçon sans qu'il ne sache. طيب أي الشرط الثاني رضا الزوجين. Donc, la deuxième condition, le consentement des deux époux. Comme ça a dit Cheikh Rahimahullah. Le dalil à la hada, قول النبي صلى الله عليه وسلم, لا تنكح البكر حتى تستأذن, ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله, وكيف إذنها, أي البكر. قال أن تصمت. أخرجه البخاري ومسلم et les autres. Donc, le dalil qu'il faut le consentement des époux et plus spécialement de la femme, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit que la vierge ne se marie pas jusqu'à ce qu'on demande son consentement, son avis, jusqu'à ce qu'elle consente. Et celle qui est déjà mariée ne se marie pas jusqu'à ce que tustamar, hatta yani, elle donne son avis encore plus clair. Naam, je vais expliquer ça. Il a dit, on a dit à Rasulullah, qui fait idnoa? On a dit, celle qui s'est jamais mariée. C'est quoi son consentement? Il a dit, un tasmot. Et dans un autre hadith, soukoutoa, soumatoa. La vierge, ce n'est pas obligé qu'elle dise oui, j'ai accepté. Il suffit seulement qu'elle se taise et qu'elle dise pas non. Car, elle ne s'est jamais mariée et il lui est difficile de dire comme ça, oui, j'ai accepté, surtout devant un père, non, devant une mère. C'est peut-être moins grave, la fille avec sa mère, mais avec son père, cela dépend des pères. Il y a des pères où une fille ne peut pas dire devant lui, j'ai accepté le mariage, tellement elle a honte. Non. Donc, notre religion, mashallah, qui donne beaucoup d'importance à ces choses-là pour ne pas blesser, naam, lui a trouvé la solution, c'est quoi? C'est qu'elle se taise, c'est tout. Si elle se tait, ça veut dire qu'elle a accepté. Car si elle n'avait pas accepté, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Peut-être qu'elle aurait pleuré. Naam, peut-être qu'elle aurait pleuré. Et là, on aurait su aussi qu'elle n'a pas accepté. Mais certains ulama ont fait la différence. Naam, on dit si elle pleure, on va voir, est-ce que son pleur, c'est un pleur chaud ou bien un pleur froid? Naam, si c'est un pleur chaud, c'est qu'elle n'a pas accepté. C'est-à-dire, on touche ses larmes. Si elles sont chaudes, elle n'a pas accepté. Si elles sont froides, elle a accepté. Car quand il pleure d'énervement et de colère, ses larmes sont chaudes. Mais quand il pleure de joie, ses larmes sont froides. Subhanallah al-Azim. Les ulama de l'islam, subhanallah l'azim. Mais ce qui est étrange, c'est que certains ulama, comme l'imam Ibn Hazm, alayhi rahmatullah, qui bien sûr ne prenait pas comme dalil le qiyas, et aussi mufhum al-mukhalafa, qu'a-t-il dit dans ce hadith? Il a dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que son consentement, c'est le fait qu'elle se taise. Il a dit donc, si elle parle et elle dit j'ai accepté, donc ça veut dire que on n'accepte pas ce mariage. Non, ça veut dire que non, ça marche pas. Il a dit, on lui a dit pourquoi? Il a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit. Il a dit son consentement c'est qu'elle se taise. Donc il a dit puisque celle-là a parlé, même si elle dit oui, j'accepte, ça veut dire non, c'est pas accepté, il faut qu'elle se taise. C'est-à-dire yani je suis comme ça. Le hadith a dit il faut qu'elle se taise, il faut qu'elle se taise. Non, sinon c'est yani on n'a pas appliqué le hadith. Bien sûr, ne dit cela que quelqu'un qui, comme j'ai dit, ne prend pas avec mufhum al-mukhalafa, parce que les ulama, les autres, tous les autres, sont unanimes pour dire que quoi? Ils disent, subhanallah, si le fait seulement de se taire, en islam, c'est un consentement. Alors, qu'en est-il si elle va dire, j'ai accepté, subhanallah al-adhim. Quand elle se tait, elle ne dit rien, mashallah, on dit, elle a accepté. Alors, comment se fait-il maintenant? Elle a dit, j'ai accepté, je suis d'accord, mariez-moi avec celui-là. On lui dit, non, tu as parlé, donc c'est pas accepté. Subhanallah al-Azim. C'est l'une des choses ajiba jiddan, dans le fiqh de Ibn Hazm, rahimahullah, malgré que vous savez que, comme disent les ulama disent, il y a quatre livres. Quiconque ne les a pas, il n'a pas le fiqh dans sa maison. Quiconque n'a pas les quatre livres dans sa maison, il n'a pas le fiqh. Ils ont cité Fath al-Bari de Ibn Hajr, ils ont cité Nail Awtar de Shawkani, ils ont cité le Mughni de Ibn Qudama, ils ont cité le Muhalla de Ibn Hazm. Naam. Mais le Muhalla, vous trouverez des choses à l'intérieur que vous ne trouverez dans aucun livre, comme Al-Athar. Naam, Al-Athar, Athar Sahaba, et avec des sanad sahih. Et ce qui fait de Ibn Hazm, de son livre, Al-Muhalla, un livre yani, merveilleux, c'est que quoi? C'est que quand il note un hadith, le hadith, il monte avec le hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme maintenant moi je vais écrire un livre, je vais dire, Al-Bukhari a dit, Muslim a dit, et comme ça. Donc le hadith commence de Muslim jusqu'au prophète alayhi wa sallam. Mais non, il faut que le hadith commence de moi. Moi, ici au Koweït, je dis X m'a dit, Y m'a dit, et comme ça, et ça monte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hazm a pu faire cela dans son livre. Il donne, masha'Allah, le hadith directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En passant, une petite parenthèse. Alhamdulillah, dans ce pays le Koweït, on fait ramener des ulama de l'Inde et de l'Arabie Saoudite et aussi d'Angleterre, de grands ulama, subhanallah al-Azim, dans le hadith, qui te donnent le sanad, ils te donnent les chaînes de transmission du hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah al-Azim. Ils donnent, si tu assistes chez eux, ils vont lire par exemple Bukhari. Si tu assistes du début jusqu'à la fin, ça prend 8-10 jours, naam, tu pourras après dire que, quand tu dis à quelqu'un, je vais te donner un hadith du Bukhari, tu le donnes de toi-même, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec continuité, subhanallah al-adhim. Naam, ton nom sera inscrit dans le sanad. Tu pourras dire, X m'a dit, c'est-à-dire le cheikh qui est venu au Koweït, X m'a dit, m'a raconté. Et ce cheikh, il a un cheikh qui lui a raconté. Et son cheikh, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah al-adhim, quand ils ont donné le Bukhari, ici au Koweït, quand ils ont donné le Bukhari, moi j'étais en Algérie en vacances. Subhanallah al-adhim. Ça veut dire, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai muslim, masha'Allah, alhamdulillah. J'ai sahih muslim, de moi, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces jours-ci, le 27 de ce mois, il y a le Tirmidhi. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour yani, assister. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Je disais que quand on lit ce livre de Ibn Hazm al-Muhalla, bien sûr, il faut avoir assez de ilm pour ne pas tomber dans les fautes qu'il y a à l'intérieur, comme par exemple ce hadith où il a dit si la femme dit j'ai accepté, ça veut dire qu'elle n'a pas accepté. Naam. Et il y a beaucoup d'exemples aussi dans le fiqh. Naam, que je vous ai cité une fois, et par exemple le le cas le plus connu, c'est lorsque, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que si quelqu'un urine dans de l'eau qui est stagnante, cette eau, hein, qui ne bouge pas, il a dit si quelqu'un urine dans cette eau, alors cette eau, il ne faut plus se laver avec. On ne se lave pas avec une eau stagnante dans laquelle on urine. C'est comme ça qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il dit? Il dit naam, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne se lave pas avec une eau qui est stagnante et qui on urine à l'intérieur. Il a dit, mais attention, écoutez bien ce qu'il dit. Il a dit, mais si j'urine, par exemple, dans un récipient, et je jette le récipient dans cette eau qui est stagnante, alors je peux me laver avec. On lui dit, pourquoi, subhanallah al-adhim. Le prophète Aslam a dit, il ne faut pas uriner. Il a dit, justement, le prophète a dit, il ne faut pas uriner à l'intérieur. Il n'a pas dit que il ne faut pas uriner dans un récipient et jeter l'urine à l'intérieur. Il dit, attention, il ne faut pas dire ce que n'a pas dit le prophète. Attention. Hein. Le prophète A.S.A.S.M. a dit, il ne faut pas uriner à l'intérieur. Il n'a pas dit le récipient. Moi, j'ai dit, il peut uriner dans un récipient et jeter l'urine à l'intérieur de cette eau. Subhanallah al-Adhim. Naam. Et la même chose, il dit dans le chien. Le chien, le prophète A.S.A.S.M., qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si jamais il lèche le récipient, naam, on doit le laver quoi? 7 fois. Naam. Si par exemple, on a une bassine, elle est pleine d'eau, ensuite vient, par exemple, le chien, il a léché cette eau. On ne peut plus la boire. Le chien a léché cette eau. Mais Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, naam, si le chien lèche, khlas, ce n'est plus permis de l'employer. Mais par contre, si le chien rentre à l'intérieur, il rentre, il s'assoit, naam, et il sort sans avoir léché, on peut utiliser ce récipient, subhanallah al-azim. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne ses fatwas, quoique c'est un grand alam, naam, c'est un grand alam, et le grand alam, quand il fait des efforts, même s'il se trompe, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des hasanat, comme vous savez cela. Et Ibn Hazm, bien sûr, il faut l'éviter dans la aqida. Parce que il était, rahimahullah, il était jahmi dans la aqida. Al-Muhim. Tayyib, est-ce que vous m'entendez? Personne ne m'a écrit un depuis qu'on a commencé, à ce que je pense. Naam, donc j'attends un peu, inshallah. Alhamdulillah, muslim. Ya muslim, où est-ce que tu étais? Naam. Où est-ce que tu étais, toi? Alhamdulillah. Naam. Tayyib, on revient donc à ce qu'on était. Où est-ce qu'on était? Naam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jazakumullahu khairan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la Vierge, on se suffit à son silence. La Vierge, quand elle se tait, classe. Le père et la mère doivent se dire, Alhamdoulilah, elle a accepté. Mais, celle qui s'est déjà mariée, si elle se tait, son père lui dit, là tu te maries, elle se tait, ça ne suffit pas. Naam. Il faut lui donner, il faut qu'elle parle, et qu'elle dise, naam, voilà et voilà. Naam, j'ai accepté ceci, cela. Pourquoi? Parce que la Vierge ne s'est jamais mariée. Elle a honte de parler dans ces choses. Mais l'autre s'est déjà mariée. Naam, elle sait ce qu'est le mariage, ce qu'est le divorce, ce qu'est quoi. Donc, elle parle yani, facilement. C'est pour ça qu'elle doit parler. On ne se suffit pas au fait qu'elle se soit tue. Mais elle doit parler. Elle doit dire, classe, je suis d'accord pour ce mariage, inshallah ta'ala. Et comme ça, naam. Qal. Et ici, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahou a dit, فنص على البكر ونص على الأب ولأن هذا العقد من أخطر العقود. نعم. وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع على عقد البيع ففي النكاح من باب أولى لأنه أخطر وأعظم. إذ إن البيع إذا لم تصلح له السلعة سهل عليك بيعها لكن الزواج مشكل. الشيخ ابن عثيمين رضي الله عنه il a dit si en islam on ne peut pas forcer quelqu'un pour la vente, qu'en est-il pour le forcer pour se marier? Il parle de la femme bien sûr. En islam, il est interdit de forcer quelqu'un pour qu'il vende. Il faut qu'il y ait le consentement, même pour acheter. Personne ne doit me forcer pour que j'achète une chose que je ne veux pas. Il faut que je consente pour acheter. Il a dit, subhanallah, si c'est comme ça dans la vente, alors qu'en est-il dans le mariage? Une femme et ou là, un homme, un couple qui vont vivre, je ne sais pas, peut-être 40, 50 ans ensemble, vont avoir des enfants, etc. Comment se fait-il qu'on puisse forcer quelqu'un pour être avec une autre personne que peut-être même qu'il déteste? Allah l'alim. Ici, ça me rappelle une chose. Non, donc, quand j'ai parlé de la vente, ça me rappelle une chose. Certaines personnes, quand elles vont acheter une chose, des fois comme ça, quand c'est un marché comme ça dans la rue, etc. Non, c'est pas marqué le prix fixe. C'est pas comme dans les monoprix où là, c'est écrit le prix. Non, tu peux pas négocier. Et comme ça, dans les grands marchés, par exemple, dans les rues, etc. Non. Des fois, tu trouves quelqu'un en train de vendre une chose. Tu lui dis, par exemple, c'est combien? Il dit, par exemple, 10 euros. Tu lui dis, allez, par exemple, 7. Il te dit, non, 10. Tu lui dis, 7, 10, 7, 10. Vous êtes comme ça? Ensuite, Yanni, tu veux presque le forcer. Classe, classe, tu lui dis, j'ai 17. Classe, classe. Et tu prends la chose, et peut-être même, tu t'en vas un peu, non, et tu lui jettes 7 euros. Classe, ça, je t'ai dit, 7. Allez, salam alaikum, c'est fini, à demain. Et tu pars. Ça, c'est interdit en islam. C'est interdit. Naam, subhanallah al-adim, tu l'as forcé. Classe. Comment ça? Est-ce qu'il a consenti? Il n'a pas consenti. Tu as dit 7, tu as jeté l'argent et tu es parti. C'est pas comme ça. La même chose, on dit les ulama, pour quelqu'un qui a honte de toi. Quelqu'un, tu te présentes, il te connaît, tu es je ne sais pas qui, tu es, je ne sais pas, un commissaire, ou là, tu es imam de la mosquée. Il te connaît lui aussi, il a honte de toi. Il a dit 100 euros, tu lui dis non, 70. Maintenant, il a honte de toi. Tu sens qu'il est, subhanallah, il est dans l'embarras. Tu sens, tu vois ton visage, son visage, il est dans l'embarras. Naam. Et quand même, tu lui jettes comme ça 70, tu lui dis, jazakallahu khaira, shukran, jazakallahu khaira. Et tu pars. Cette vente est nulle. Cette vente est nulle et tu as pris du feu. Tu as pris du feu et tu n'as pas pris la marchandise. C'est un feu que tu as pris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le consentement du vendeur. Non. Tu es venu d'une façon à yani, le mettre dans l'embarras. Il n'a pas pu te dire, j'ai honte de vous, je ne vends pas. Non. Tayyib. Maintenant, donc il a dit, la règle c'est quoi? Aucune personne ne peut se marier sans consentement, et encore moins la femme, et encore moins la vierge. Il a dit, maintenant il va citer l'exception, qui on peut marier sans leur avis. Illa al-balir al-ma'tuh, wal-majnuna, wal-sarir. Sauf trois personnes, on peut les marier sans leurs avis. Le premier, al-balir al-ma'tuh, la yushtaratu ridah. لأنه لا إذن له ولا يعرف ما ينفعه وما يضره. البالغ المعتوه. المعتوه, je ne sais pas si vous pouvez me dire comment ça s'appelle en français, ce n'est pas le fou, mais quelqu'un qui n'est pas loin de la folie. Mais il sait ce qu'il fait, il mange, il dort, il discute un peu, etc. Ce n'est pas un fou. Mais il n'est pas très lucide. Il n'est pas très lucide. C'est un peu, si je puis dire, un peu attardé mental. Un peu quelqu'un qui est attardé mental. Naam. Il a dit, maintenant, celui-là, même s'il est pubère, il a dit on peut le marier. Pourquoi? Il a dit, parce qu'il ne sait pas. Voilà la cause. Il ne sait pas quelle est la chose qui lui convient et la chose qui ne lui convient pas. Quelle est la femme qui lui convient, la femme qui ne lui convient pas, il ne sait pas. Quelle est la chose qui lui fait du bien, la chose qui lui fait du mal, il ne sait pas. Celui-là, si on va attendre qu'il cherche lui à marier et qu'il donne son avis, etc., naam, il ne va jamais se marier. Ils ont dit, celui-là, on va le marier. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaît pas yani, les choses qui lui font du bien et les choses qui lui font du mal. والمعتوه هو الذي نسميه نعم نسميه باللغة العامية الخبل وليس مجنونا il a dit en arabe dialectique en arabe saoudien on l'appelle الخبل وليس مجنونا il a dit ce n'est pas un fou نعم le fou c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait ne sait pas ce qu'il dit il peut se jeter de la fenêtre celui-là ce n'est pas un fou c'est seulement un attardé mental disons, naam. فَهَدَ يُزَوِّجُهُ أَبُوهُ Celui-là, il a dit, c'est son père qui le marie. وَلَكِنْ بِمَذَا نَعْلَمْنَا يُرِدُ النِّكَحِ Mais, comment va-t-on savoir qu'il veut se marier? Naam. Comment va-t-on savoir qu'il veut se marier? Quelle est la preuve que celui-là veut se marier pour qu'on le marie? Il a dit, نعرف ذلك بميله إلى النساء وتحدثه في النكاح وظهور علامة الرغبة عليه فهذا نزوجه ولا يحتاج نستأذن منه. Il a dit, comment on sait cela? On sait cela lorsque on remarque qu'il penche vers les femmes. نعم, il penche vers les femmes. وتحدثه في النكاح. Et il parle par exemple du mariage. نعم, il dit par exemple, maintenant tout le monde s'est marié, les gens se marient, etc. On dit donc celui-là, il veut se marier. Naam. وظهور علامة الرغبة عليه. Naam. Et on voit les signes, naam, que il voudrait se marier. On voit ces signes. فهذا نزوجه ولا يحتاج أن نستأذن منه. Celui-là, on le marie et on n'a pas besoin de demander son consentement. الثاني qui est la deuxième personne qu'on peut marier sans quoi? Sans son avis. El-Majnouna. La fille qui est folle. La folle, on peut la marier sans son avis. Il a dit, يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا C'est son père qui la marie. وَهِيَ أَبْعَدْ مِنَ الْمَعْتُوهَ نعم. وَهِيَ أَبْعَدْ مِنَ الْمَعْتُوهَ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا الْمُؤَلِّفُ بِالْبُلُوغَ وَلَا بِالصِّغَرِ لأن الأب يجبر ابنته عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن طيبا. D'après le livre, on va voir après quel est le plus juste. D'après le livre, il a dit, نعم, son père la marie, نعم, parce que le père a le droit de forcer la fille, qu'elle soit folle ou qu'elle soit yani, lucide, qu'elle raisonne, qu'elle soit pas folle. Il a dit, il a le droit de la forcer pour se marier, à condition qu'elle soit vierge. وَهَلْ يُزَوِّجُ الْمَجْنُونَ مُطْلَقًا Et est-ce qu'il a droit de forcer la folle, comme ça, yani, absolument, yani, sans exception? Il a dit, ظَاهِرُ كَلَمِ الْمُؤَلِّفِ الْإِطْلَاقِ D'après l'imam al-Hijjawi, rahimahullah, naam, en général comme ça, il a droit de marier la folle sans lui demander son avis. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit Allah yarhamou, "Lakin yanbaghi an yuqayyada bima idha alimna raghbata fi an-nikah." Cheikh Ibn Uthaymin a dit, mais on doit faire la condition que on ne la marie la folle, on ne la force pour le mariage ou bien on ne la marie sans son avis que si on remarque qu'elle veut se marier. Naam, on remarque qu'elle veut se marier. فإذا لم نعلم رغبة في النكاح صارت تزوج عبثا. Car maintenant, si on ne sent pas qu'elle veut se marier, donc ce mariage va être quoi? Va être, subhanallah al-azim, quelque chose de abath. Va être quelque chose de, yani, c'est pas comment on dit abath. Non, ça va être, yani, c'est comme, yani, ça va rien donner. Ça va pas donner de résultat. Non, d'un côté elle est folle. Et de l'autre côté, on n'a pas senti qu'elle voulait se marier. Ma'alish, si elle était folle, mais elle veut se marier. On sent qu'elle veut se marier, elle dit des choses, elle fait des choses, ça ne fait rien, on la marie. Bien sûr, avec des conditions, on va dire qu'elle est folle, etc. Mais maintenant, subhanallah al-azim, d'un côté elle est folle, et d'un côté, on n'a aucun signe qui montre qu'elle veut se marier. Alors pourquoi on va le marier? Pourquoi on va la marier? Si elle voulait, on avait peur. Naam. Naam. Si elle, étant folle, et n'ayant pas le désir de se marier, ce mariage serait inutile. Ce mariage n'aurait pas d'utilité. Mais, étant folle, et quand on découvre qu'elle veut se marier, au moins là, on a des raisons de la marier. Non. Il a dit maintenant, si on ne ressent pas qu'elle veut se marier, on ne ressent pas qu'elle a le désir, maintenant si on va la marier, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Il a dit, il est possible que des fois, elle soit dans une grande folie. Hein, faire la folie, des fois, ça c'est comme un baromètre. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Il a dit, il est possible que des fois, elle soit dans ces moments de grande folie et qu'elle puisse tuer ses enfants. Elle puisse tuer ses enfants. Et il a dit, cela s'est déjà produit. Et cela s'est déjà produit. لكن إذا علمنا أنه لابد من تزويجها بقرائن الأحوال فلابد من ذلك. Il a dit, mais si on sait, se basant sur les signes extérieurs, on sait qu'elle veut se marier, alors dans ce cas, il a dit, il faut la marier. نعم. La folle, il faut la marier si elle veut se marier. كذلك المجنون. La même chose pour le fou. ولا يشترط رضا. Et pas la peine de demander son avis. Je ne vais pas au fou, ni à la folle, et je vais lui dire, je vais te marier avec X ou Y. Non, parce que elle n'est pas consciente et elle ne va pas comprendre ce que je vais dire, etc. Il a dit, pour savoir le fou, s'il veut se marier ou pas, on regarde les signes. Si on voit que les signes نعم nous montre qu'il veut se marier, alors on le marie. ولا حاجة لنا أن نقول له هل ترغب في الزواج. Et ce n'est pas la peine qu'on lui dise est-ce que tu veux te marier, car la réponse sera sûrement non. Et même s'il dit oui, peut-être que il sait pas ce qu'il dit. نعم. Troisièmement, il a dit qui on peut marier. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire ici que, et malheur, par malheur, ça arrive. Par malheur, c'est beaucoup arrivé. Non. Si on marie une folle, ou là, une attardée mentale, et la même chose pour l'homme, c'est l'une des grandes conditions, c'est de quoi? C'est de dire à l'autre personne que voilà, cette personne est une attardée mentale, ou bien cette personne est une folle. Non. Parce que si on cache ça, c'est que vraiment on a dupé, et vraiment on a rusé, et vraiment on a fait le haram. Non. De toute façon, l'autre époux, le deuxième, va sûrement se séparer, va demander la séparation, non. Et ce sera, yani, pas bien pour la fille, non. Elle a consommé le mariage, alors que quoi? Alors que on a caché à l'homme, et maintenant, ça va être déjà compliqué pour la famille quand elle va être divorcée. Non. Le troisième, qu'on peut marier sans demander son avis, il a dit sarir, le jeune, wa huwa min dun bulugh, celui qui n'a pas atteint encore la puberté. Kadhalika la yushtaratu ridah. Non. Ce n'est pas obligé de lui demander son avis. Li'annahu idha kana dun at-tamyiz fa huwa kal-majnun la tamyiz lahu. Ils ont dit parce que quand il n'est pas encore pubère et que il n'est pas encore conscient, car celui qui n'est pas pubère se divise en deux. Celui qui n'est pas conscient, quand il a 4 ans, 3 ans, 5 ans, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il dit celui-là. Il joue seulement. Et il y a le conscient, disons à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Vous n'avez pas remarqué que en islam la salat commence à 7 ans? Pourquoi elle commence pas à 5 ans? À 5 ans, il ne sait que jouer. À 7 ans, sa mémoire, son mort commence à se développer. Sa conscience commence à grandir. Sa prise de conscience commence à avoir une influence. Maintenant, il commence déjà à faire la prière. Non. Cheikh Allah Yerhamou dit, wa fi hadhihi al-mas'ala nazar. Il a dit, et quand l'imam Al-Hijjawi rahimahullah a dit que celui qui est sans la puberté, naam, et avant la prise de conscience, on peut le marier sans son avis, il a dit ça, ça c'est sujet à méditation. C'est sujet à méditation. Naam, ce n'est pas très vrai comme ça. Il a dit, صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر. Il a dit, c'est vrai, quelqu'un qui n'est pas pubère, il n'a pas, يعني, un consentement qui a beaucoup d'importance. لأنه يحتاج إلى ولي. Parce que il ne peut pas se marier sans quoi? Sans avoir un tuteur. Même l'homme. Regardez, c'est pas une femme, c'est un homme. Et il ne peut pas se marier sans tuteur. Pourquoi? Parce que il n'est pas encore pubère. Quand il n'est pas pubère, l'enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, le garçon ne peut pas se marier, c'est son père qui le marie. Naam. Lakin, hal huwa fi haja ila zawaj? Mais, d'abord, est-ce que cet enfant, qui n'est pas encore pubère, est-ce qu'il est dans le besoin de se marier? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il est dans le besoin de se marier? Ghaliban laysa bi haja. La plupart du temps, Cheikh Adillah Yahmou, il n'est pas dans le besoin de se marier. Ensuite, l'enfance, le fait d'être enfant, c'est quelque chose qui va se terminer, qui va prendre fin avec la puberté. Demain, il sera pubère, donc attendons-le qu'il soit pubère et il choisit. Pourquoi on va le marier maintenant alors qu'on sait que l'enfance va se terminer, elle se termine avec la puberté. Mais non pas le fou. Voilà la différence entre l'enfant et le fou. Le fou, naam, quand il sera pubère, il restera toujours la même chose. Même après la puberté, il est toujours fou. C'est pour ça que si on sent qu'il veut se marier, on doit le marier. Mais l'enfant avant la puberté, naam, on ne peut pas le marier, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé, je veux dire. Naam, mais on attend de préférence qu'il soit pubère pour se marier. Entre parenthèses, je vous dis là, d'ailleurs je vais citer pour ne pas l'oublier, inshallah ta'ala, je citerai ici que, je citerai que, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, a marié un enfant à lui ou bien deux, j'ai oublié, un enfant ou deux avant la puberté, bien sûr, sans leurs avis, parce que avant la puberté, il avait 6 ans peut-être, il l'a marié avec la fille, de, comment ça s'appelle? La fille de son frère. Naam. Le hadith se trouve dans Irwa al-Ghalil de Sheikh al-Albani. Il a dit hadith sahih. Abdullah ibn Omar a marié un ou deux de ses enfants, naam, avec, yani, des neveux ou des nièces, naam, sans leurs avis quand ils étaient jeunes avant leur prise de conscience. Naam. Maintenant, c'est moi qui ai oublié. Maintenant, j'oublie. Est-ce qu'il a marié deux filles, ou là il a marié deux garçons, j'ai oublié. Mais de toute façon, il a marié un ou deux enfants quand ils étaient jeunes avant la puberté. طيب. لكن إذا قال قائل ربما يحتاج الصغير إلى زوجة. Il a dit, mais si quelqu'un va nous dire, même celui-là quand il est jeune, peut-être qu'il a besoin d'une femme. Il a besoin d'une épouse. كأن تكون أمه ميتة. Par exemple, un enfant, نعم, Sa mère est morte. وَزُوجَتُوا سَتَقُمْ بِحَاجَاتِ وَمَصَالِحِ. Alors, si on va le marier, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner que cette femme va l'aider, bien sûr, va l'aider dans ses besoins et مَصَالِحِ. Et dans ses intérêts, c'est elle qui va l'aider dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Disons un peu, elle va remplacer sa mère. Celui-là n'a pas de mère. فهل نقول في مثل هذا الحال إن نزوجه؟ Est-ce que s'il est dans un cas pareil, il n'a pas de mère et il a besoin de quelqu'un qui l'aide dans la maison, est-ce que dans un cas pareil, il a dit on le marie? Est-ce qu'on le marie? Il a dit نقول نعم. Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه a dit نعم نعم. وهذا في الحقيقة فيه مصلحة. Parce que si on le marie dans ce cas, c'est pour ses intérêts. ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج. Et l'un des intérêts du mariage, c'est que la femme, naam, aide l'homme, naam, dans ses besoins, aide l'homme. غير الجماع وما يتعلق به. Naam, à part les choses intimes que l'homme et la femme font ensemble, elle ne se marie pas la femme seulement pour cela. Et ni l'homme ne se marie seulement pour cela. Mais ils se marient pour que l'un l'aide l'autre. L'un l'aide l'autre et se seconde. Et se seconde. Quand il a besoin d'elle, il la trouve comme un pilier devant lui. Et elle, quand elle a besoin de lui, elle est dans des moments de faiblesse, de maladie, de ceci, il est là, masha'Allah, comme un pilier. Naam, qui la seconde. فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِلْنِكَحِ مَقَاصِدْ غِرْمُسْ الْجِمَعِ. Il a dit donc, de cela, on apprend que le mariage, ce n'est pas seulement les rapports intimes. C'est pas ça le mariage. Ce n'est pas seulement les rapports intimes. فَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا فَهَلْ نَقُلْ فِي مِثْلِ الْحَالِ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ الْأَبُ لَهُ الزَّوَاجَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ لِتَقُومَ مَثْلًا. Il a dit, et si c'est comme ça, est-ce que donc le père peut le marier sans son avis avec une femme qui l'aiderait dans la maison, etc. Naam. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que il est très décevant, par malheur, que beaucoup de gens, surtout les hommes, pas les femmes, surtout les hommes, se marient seulement pour les choses charnelles. Naam. Seulement pour les choses de sentiment et les choses que je viens de citer. C'est-à-dire que s'il se marie seulement pour cela, naam, il n'a pas d'autre but que cela, dès qu'il a yani atténué sa faim et il s'est rassasié, maintenant que peut-être il voudrait changer. Naam. Une semaine ou là, un mois après le mariage, il a eu ce qu'il voulait, donc il a dit maintenant, il se dit à lui-même, il se dit maintenant, naam, il a assouvi ses passions. Il se dit maintenant, yani, khlas, elle me paraît normale. Naam. Avant le mariage, la femme lui paraît ceci, cela, il a fait des montagnes de rêves. Maintenant, il a eu tout ce qu'il voulait d'elle. Khlas, elle lui paraît très normale. Il se dit, et si je changeais? Naam. Et si je changeais? Pourquoi pas? Et si je changeais? Et certains, et même beaucoup, font cela, subhanallah al-azim. Beaucoup? Bon, pas beaucoup, mais certains font cela, subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Ils se marient pas avec l'intention, naam, de faire de son mariage une adoration. Naam, je me marie car Allah Ta'ala m'a demandé cela, le prophète m'a demandé cela, je me marie pour avoir des enfants, des musulmans, leur apprendre la salat, faire d'eux des ulamas. Non, lui il voit seulement les petites minutes qu'il va passer dans la chambre à coucher. Subhanallah al-Azim. Les petites minutes, c'est tout qu'il va passer dans la chambre à coucher. C'est tout, c'est ça pour lui le mariage. Il voit son nez, c'est tout. Il voit le bout de son nez. Il voit pas que, naam, il va avoir des enfants, il va les éduquer, ce seront des musulmans, ce seront peut-être des ulamas, naam, ce seront des gens qui vont propager l'islam, ce seront des gens qui vont lui faire des doigts quand il va mourir, ce seront des gens qui peut-être vont lui faire l'intercession demain, naam. Et ensuite, quand il se marie, il ne dit pas, cette femme, c'est d'abord une sœur. C'est qui? C'est d'abord une sœur fillah. Avant d'être ma femme, c'est une sœur fillah. Tu as oublié que c'est une sœur. Tu n'aimes pas ta sœur en Allah comme tu aimes ton frère en Allah. Tu as oublié ça? C'est pour ça que ceux qui ne se marient pas avec les sentiments que je viens de citer dans le cœur, pour eux, le divorce est très facile. Le divorce, c'est comme s'il jetait une cigarette qu'il avait dans la bouche. Il la jette là, il l'écrase avec son pied, c'est terminé, je divorce. Naam, il ne s'est pas marié avec un cœur plein de quoi? Plein de préceptes et plein de sentiments. Naam, plein, yani les sentiments que Allah Ta'ala aime. Et plein de projets. Projets dans le cœur. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala n'yahdina. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala n'yahdiyana. Naam, quand j'entends combien qu'il y a de mariages, combien qu'il y a de divorces en France, j'ai peur. Naam. Quand j'apprends combien il y a de divorces en France, je me dis Allah al-Musta'an, c'est tout ce que je peux dire. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala al-Musta'an. Tayyib. Il a dit, on a parlé donc de l'enfant Hada, si on lui a trouvé une femme qui pourrait yani, remplacer sa mère, est-ce que dans ce cas il a dit on le marie ou pas? Ensuite, il a cité ici, yani, les deux cas, nam, et, طيب, il a dit le madhab, yaqulu na'am, yu'aqad lahu nikah, itarum bil masalihi. Walou qulna bi'adam siha, wa anna hadhihi al masalih yumkinu idrakuha bi isti'jar hadhihi al mar'a litaqum bil masalihi, wa la nulzimuhu bi zawja, yulzimuhu mu'natuha, wa l'infaq 'alayha, wa tarithuhu law mat, wa yatarattab 'alayhi umur ukhra. فلو قلنا بذلك لكان له وجه فكوننا نلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالح على وجه آخر محل نظر نعم شيخ ici a montré une chose ما شاء الله سبحان الله العظيم il a dit celui-là نعم on va le marier maintenant il est jeune on va lui ramener une femme qui va l'aider etc il a dit pourquoi aller à cela alors que on pouvait, par exemple, naam, nistajir. Nistajir, c'est payer une femme. On peut ramener une femme, on appelle, je ne sais pas comment on l'appelle, une femme de ménage ou là, une domestique, ou là, je ne sais pas comment on l'appelle, et on lui donne de l'argent mensuellement, ou là, par semaine, et elle vient faire le ménage et aider cet enfant. Pourquoi spécialement on va le marier? Pourquoi on ne le laisse pas qu'il grandisse et que ce soit lui, mashallah, qui choisisse l'époux? Naam. Puisqu'on peut faire venir une personne et la payer, il a dit pourquoi on va maintenant, sans son avis, le marier avec une femme. Je dirais même que peut-être quand il sera pubère et assez âgé, nam, il verra que ce n'est pas la femme qui lui fallait. Nam, mas'ala. Idha zawwaja al-abu ibnahu as-saghir maslahati, falahu al-khiyar al-balagh. Nam, maintenant il va dire quelque chose d'important. Il a dit, et si le père a marié son enfant qui était jeune, pour ses intérêts, l'intérêt de l'enfant. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que lorsqu'il sera pubère, il a le droit de choisir, c'est-à-dire entre de rester avec elle, celle que son père lui a choisie, ou bien de se séparer d'elle. Il a dit, هناك قول في المذهب بأن له الخيار في الفسخ والصحيح أنه لا خيار له. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, le plus vrai, c'est que il n'a pas le droit de choisir. Parce que Allah Ta'ala a donné au père quoi? Que c'est lui le tuteur quand son fils n'est pas pubère. Et le tuteur, il fait de son fils tout ce qui rentre dans ses intérêts. Et le père a dit, c'est dans l'intérêt de mon fils, non, de lui ramener une femme, de le marier jeune avant la puberté. Bon, entre parenthèses, c'est lui qui a vu comme ça. Donc, Cheikh a dit, le vrai, le plus juste, c'est que il n'a pas le choix. فَإِنْ أَرَادَ الْإِبْنَ أَنْ يُفَارِقَ هَذِهِ الزَّوْجَ فَلَوْ يُطَلِّقْ. Mais, si le fils, l'enfant, veut séparer, alors il a le droit de divorcer. Naam. Alors, il a dit, il a le droit, après être devenu pubère, il se dit que cette femme n'est pas de mon genre, mais cette femme a tel et tel défaut, alors il a le droit de la divorcer. Naam. Ensuite il a dit والبكر ولو مكلفا. والبكرة, pardon, ولو مكلفا. Il a dit la quatrième personne que l'on peut marier sans demander son avis, il a dit البكر, la vierge. Naam. On va voir maintenant quel est l'avis le plus juste. On va lire d'abord ce qu'a dit celui qui a écrit le livre, ensuite, quelle est la vie le plus juste, inshallah ta'ala. Ay, annahu yajouzu li abi al-bikr an yuzawwijaha walau bighayri ridaha walau kanat mukallafa ay baligha aqila. Il a dit, c'est-à-dire que il est permis au père de marier sa fille vierge qui ne s'est jamais mariée sans son consentement, sans demander son avis, hein. وَلَوْ كَنْتْ مُكَلَّفَ. Il a dit, même si elle est, subhanallah al-adhim, pubère. Même si elle est pubère. Non seulement avant la puberté, il a dit, mais même après la puberté, il peut la marier sans son consentement. Naam. طيب. فَنَقُولُ لَهُمْ مَا هُوَ دَلِيلُكُمْ. On va leur demander à ceux-là, quel est votre délil? Comment pouvez-vous marier une femme ou là une fille sans son consentement? Ils vont dire, notre délil, c'est que Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, a marié sa fille Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, à l'âge de 6 ans, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a marié sans son avis. طيب. فنقول لهم هذا دليل صحيح ثابت. Ce que vous avez dit est vrai. C'est-à-dire que le hadith est authentique. Le hadith est authentique. Ce n'est pas ce que vous avez dit, non. Le hadith que vous venez de citer est un hadith authentique. Naam. Parce qu'il se trouve dans le Bukhari. Naam. Il se trouve même dans le Muslim. لكن استدلالكم به غير صحيح. Mais le fait de yani, vous baser sur ce hadith dans ce qu'on est en train de parler, vous vous êtes trompé. Non? Car tu peux avoir un hadith sahih, mais tu ne l'emploies pas là où il faut l'employer. Donc il ne suffit pas en islam de venir avec un hadith sahih ou un verset coranique. Mais encore faut-il que le verset et le hadith s'appliquent sur d'autres les choses dont on est en train de parler. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a dit aux Khawarij, les Khawarij, les takfiriyin de son époque, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit, ils sont allés vers des versets qui sont descendus sur les kuffars et ils les ont appliqués sur nous. Allahu Akbar. Le hadith est sahih. Ce hadith que je viens de dire d'Abdullah ibn Omar, il est sahih. Naam, il se trouve même dans le Bukhari. Naam, subhanallah l'adim. Il a dit quoi? Il a dit, les Khawarij sont allés prendre des versets qui sont descendus sur les kuffars, où il est dit, il faut tuer les kuffars, il faut exterminer les kuffars, il faut ceci, et ils les ont appliqués sur nous. Nous, les compagnons, nous les musulmans. Naam, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anka, pourquoi tu t'étonnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit qu'ils tueront les gens de l'islam et laisseront les adorateurs des statues? Pourquoi tu t'étonnes? Le prophète alayhi wa sallam a dit cela. Il a dit, ils tueront les gens de l'islam et ils laisseront les kuffars et les associateurs. Ils ne les tueront pas. Subhanallah l'azim. Les chiens de l'enfer. Tayyib. Donc je disais que quoi, d'ailleurs rappelez-moi inshallah ta'ala à partir des prochains dasp, toujours dans la bannière, vous trouverez inshallah ta'ala les noms des salles, des salons les plus dangereux du Paltok. Ansar Tawhid, Ansar Jihad de France, Ansar Kada, tout cela inshallah ta'ala, vous les trouverez dans ma bannière. Naam, à chaque fois qu'il y a une nouvelle salle, elle sera dans la bannière, bi'idhnillah azza wa jal. La guerre contre eux, jusqu'à inshallah ta'ala, qu'on meurt bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils reviennent dans le droit chemin. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib, qu'est-ce qu'il a dit ici? Tayyib, attendez que je sache où j'étais. Naam, je disais que il ne suffit pas de me dire que ton hadith est sahih. Mais ton hadith s'applique-t-il dans notre cas où on est en train de parler? Et ton verset sur lequel tu te bases, il s'applique ici? Sur ce qu'on est en train de parler, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Al-Sunnah al-Jama'a disent que les deux pères, en arabe on dit l'abawan, en français on dit le père et la mère. Al-Sunnah al-Jama'a disent que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont en enfer, ou bien iront en enfer. Qui a dit ça? Ce n'est pas nous, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Quelqu'un lui a demandé où est mon père, il lui a dit il est en enfer. Ensuite le prophète alayhi wa sallam lui a dit ton père et mon père finnar, en enfer. Tayyib. Et la même chose pour sa mère. Il est une fois allé sallallahu alayhi wa sallam devant sa tombe demander à Allah ta'ala de lui pardonner. Allah ta'ala n'a pas accepté ça de lui. Al-Muhim. Maintenant toi, quand tu es le hadith est dans Sahih Muslim. Et si je ne me trompe pas, aussi dans Sahih Bukhari. Maintenant, quand toi tu dis à quelqu'un, tu dis par exemple, les parents du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam iront en enfer, c'est d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va te citer un verset, comme quoi, moi j'ai un verset, et le verset il est plus fort que le hadith, subhanallah l'adim. C'est comme si, chez ce jahl, c'est comme s'il y avait, il peut y avoir contradiction entre un verset et un hadith. Naam, chez ce jahl, il peut y avoir une contradiction entre un verset et un hadith. Donc, s'il y a contradiction, moi je prends ce qu'il y a dans le Coran. Premièrement, je vais lui dire. Il va citer quel verset? Il va dire, Allah Ta'ala dit dans le Coran, surat al-Duha, وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَقَرْضَ. Et certes, Allah Ta'ala te donnera de quoi te ravir, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Ils ont dit, et pour le ravir, Allah Ta'ala ne va pas faire rentrer ses parents en enfer. Vous voyez? Ils ont un verset. Allah Ta'ala a dit, je vais te donner de quoi te ravir. Et eux, ils disent, et rentre dans le ravissement du prophète, qu'il ne fasse pas rentrer ses parents en enfer. Subhanallah l'adim. Regardez, le hadith, il est sahih, il dit, ils vont aller en enfer. Eux, ils vont prendre un verset qui n'a rien à voir avec cette chose. Il n'a rien à voir avec les parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils vont dire, ça va rentrer ici à l'intérieur. Subhanallah l'adim. On va leur dire, qu'est-ce qui est étonnant dans cette chose pour que vous l'acceptiez pas? Pourquoi vous n'acceptiez pas que le prophète Ressoussem dise cela? Est-ce qu'il peut mentir? Ou est-ce qu'il peut se tromper dans la charia? Est-ce qu'il peut mentir? Ou alors est-ce qu'il peut se tromper dans la charia? Pourquoi vous acceptez de Ibrahim alayhi salam, quand il parle de son père, il dit, وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. Et pardonne à mon père, c'était un égaré. Son père, dans Sahih al-Bukhari, c'est cité que le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala ordonnera au père de Ibrahim de devenir un dab. Vous savez c'est quoi le dab? Je ne sais pas comment il s'appelle en arabe. Le dab, ensuite, plein de souillures, la souillure va sortir de son derrière, plein de souillures, et il a dit, et on le jettera à Jahannam. Celui-là aussi, c'est le père d'un grand prophète. Pourquoi tu acceptes qu'il aille en enfer? Non, il sera jeté. Vous savez c'est quoi le dob? Le dob, c'est un animal qui ressemble au lézard, mais beaucoup plus grand. Il peut faire 30-40 centimètres. Non, qu'on trouve dans le désert. Et des fois, on trouve aussi au bord de la mer. Non, il fait 30 ou la 40 centimètres, grand comme un lézard. Des fois, dans certaines maisons, il y a des gens qui l'accrochent comme ça dans les murs. Il y a une parure. Naam. Il s'appelle Dab, je ne sais pas comment il s'appelle en français. Al-Muhim. Ensuite, quand ceux-là disent par exemple, moi j'ai un verset et toi, tu n'as qu'un hadith. On leur dit d'abord, il n'y a pas de contradiction. Jamais dans la vie de l'islam, il n'a été trouvé une contradiction entre un hadith et un verset. Mais la contradiction, en fait, elle existe où? Elle existe dans la tête de la personne. C'est la personne qui a eu des contradictions dans sa tête. Mais la contradiction n'est ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Naam. Ensuite, on va leur dire autre chose. Savez-vous que, si on a un verset, naam, et on a un hadith qui est authentique, et que le verset n'est pas abrogé, et que le hadith est sahih, naam, et que, comme j'ai dit, il n'y a jamais de contradiction, et que maintenant, on n'a pas pu, comment joindre entre les deux. Vous savez ce que dit l'imam Ibn Hazm, rahimahullah? Il a dit, dans ce cas, tu prends avec le hadith, et tu ne prends pas avec le verset. Subhanallah. Tu prends avec le hadith, et tu ne prends pas avec le verset. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Si quelqu'un va réfléchir, il va trouver la réponse. Pourquoi je prends avec le hadith? Entre parenthèses, il est authentique. Pourquoi je ne prends pas avec le verset? Car celui qui a dit le hadith connaît le verset. Allahu Akbar. Naam. Qui a dit le hadith? C'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le verset dont toi tu es en train de te baser sur lui. Le prophète Aïssam ne connaît pas ce verset. D'où il est venu ce verset? Il est venu Il était d'abord dans le cœur du prophète alayhi sallam. Jibril l'a fait descendre dans son cœur. Et malgré cela, le prophète alayhi sallam a dit ce verset. Pardon, a dit ce hadith. Donc, je devance le hadith sur le verset. Comme ça a dit Ibn Hazm rahimahullah. On revient à ce qu'on était. Naam. Donc, eux, ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur le mariage de Abu Bakr avec Aïcha, de sa fille Aïcha, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ça y est, on a un dalil. Voilà, Abu Bakr a marié sa fille à l'âge de 6 ans, et elle a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Elle savait même pas, elle était en train de jouer. Sa sœur Esma est venue lui dire, viens, elle l'a fait rentrer dans la maison, elle lui a peigné un peu les cheveux, elle lui a changé les vêtements, elle lui a dit, attends un peu, et le prophète alayhi sallam est rentré, ensuite elle l'a prise, elle l'a posée sur ses genoux, et comme ça. Allah l'adim. Ils ont dit, donc on a le hadith, khlas. C'est pas la peine d'aller loin. Le Cheikh Larmou a dit, certes, le hadith est sahih, mais je vais vous prouver, lui il dit, je vais vous prouver que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Comment cela? Il a dit, non, alimna dhalik. Non? Fadakoul. Hein? Regardez. فهل علمتم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنه وأبت؟ Est-ce que vous qui dites que le prophète صلى الله عليه وسلم s'est marié ou plutôt que Abu Bakr a marié sa fille sans son consentement? Alors, on va vous poser une question. Est-ce que vous savez vous que Abu Bakr رضي الله عنه a demandé à sa fille et elle a dit non, j'accepte pas ce mariage? Est-ce que vous avez cette chose? Est-ce que vous savez que le prophète, que Abu Bakr a demandé à sa fille, lui a dit, tu veux te marier? Elle a dit non. Vous ne savez pas cela. Ma alimna dhalik. Bel inna nana alam ilm al yaqin anna Aisha law ista'dana abuha lam tamtami'. Mais nous on dit le contraire. On est sûr, on a une certitude, naam, indubitable, que quoi? Que si Abu Bakr avait demandé à Aïcha, accepterais-tu que je te marie avec le prophète, qu'elle aurait dit oui. Ah, chef, maintenant on vous dit maintenant le contraire. Nous on vous dit le contraire. Vous avez dit, il ne lui a pas demandé son avis. On dit d'accord, il n'a pas demandé son avis. Mais, est-ce qu'il lui a dit, est-ce que tu acceptes? Elle a dit non. Vous n'avez pas le nom, vous pouvez pas dire qu'il l'a marié de force. Maintenant nous on vous dit, est-ce que vous savez qu'elle a dit non? Vous ne savez pas. Eh bien, au contraire, s'il lui avait demandé, on est sûr qu'elle aurait dit oui. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahou. La preuve, c'est quoi? Non. C'est lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le problème, vous connaissez le problème avec ses femmes, et il les a isolées pendant un mois, pendant 29 jours. Non. Ensuite, Allah Ta'ala a fait descendre le verset. Oh, prophète, au messager, dis à tes femmes, in kuntunna turidna al-hayat ad-dunya wa zinataha, si vous voulez cette vie du bas monde et sa parure, fata'alayna umtihunna. Alors venez, je vais vous donner le mata et vous salihkunna salahan jamila, et je vais vous divorcer. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, mais si vous aimez Allah Ta'ala, vous voulez Allah et son prophète et l'au-delà, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَةِ مِنْكُنْ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah Ta'ala a promis à celles qui font du bien de vous, يعني, أَجْرًا عَظِيمًا, de grandes, grandes, grandes récompenses le jour du jugement dernier. Et bien sûr, le prophète alayhi sallam a commencé par Aïcha. Allah Ta'ala lui a dit, tu dois demander l'avis de tes femmes. Est-ce qu'elles veulent rester avec toi et avoir la dunya? Naam, pardon. Est-ce qu'elles veulent l'au-delà et rester avec toi, ou bien divorcer, avoir la dunya? Il a commencé par Aïcha radiallahu ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Istamiri abawik fi hada wa shawirihim. Va demander l'avis de tes parents sur ce que je viens de te faire choisir. Qu'est-ce qu'elle a répondu radiallahu ta'ala anha? Qalat ya Rasulullah, afi hada astamiru abawai, ô messager d'Allah, en cette chose je vais demander l'avis de mes parents. Inni uridu Allah wa dar al-akhira. Naam, c'est pas la peine, je demande jamais cette chose. Moi je vais choisir. Impossible. Je te réponds directement. Je veux Allah Ta'ala et je veux l'au-delà. Là, c'est terminé. Changeons de sujet. C'est pas la peine, c'est impossible. Il est impossible que j'aille demander. Je vais demander à mon père, donne-moi conseil. Est-ce que je choisis entre Allah et son prophète ou entre cette dunya? Non, je sais ce que je choisis. Je suis, là, je n'ai pas de doute. Je choisis directement Allah Ta'ala et Rasulallah. Qu'a dit Cheikh Allah Irahmo? Il a dit, فَمَنْ هَذِهِ حَالُهَا لَوْ اسْتُؤْذِنَتْ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ هَلْ تَقُولُ لَا. Il a dit, une femme pareille qui vient de répondre comme ça, subhanallah l'adim, sans hésiter, elle a dit, je choisis Allah et Rasulallah. Même la peur, subhanallah, la peur qu'il la divorce. Elle a dit, est-ce que celle-là, si on lui avait demandé, c'est-à-dire si son père lui avait demandé, je te marie avec le prophète, est-ce que c'est le genre qui aurait dit non? Subhanallah l'adim. Est-ce que c'est le genre qui aurait dit non? Il a dit, yaqinan la, sûrement non. Sûrement, elle n'aurait pas dit non. وَهَذَا مِتْلُ الشَّمْسِ. Et ça, c'est clair comme le soleil. C'est clair comme le soleil. فَهَلْ فِي هَذِ الْحَدِهِ دَلِيلٌ لَهُمْ. Est-ce que vous avez donc un délil? Vous n'avez pas de délil. Naam. Vous vous basez sur le mariage d'Abu Bakr qui a marié sa fille Aïcha à l'âge de 6 ans. Ce n'est pas un délil. Naam. Moi, j'ajouterai une chose. Supposons que Abu Bakr a forcé sa fille à se marier avant la puberté. Chauffe, il faut bien que vous compreniez une chose. Sah et sahih. Quoi? Sah et sahih que le prophète, que Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, naam, a marié Aïcha sans demander son avis. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il savait qu'elle n'allait pas dire non s'il allait lui demander ça. Il savait qu'elle n'allait pas dire non s'il lui avait demandé cela. Mais maintenant, supposons que il l'a forcé. Naam, il lui a dit, je vais te marier avec le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, je n'accepte pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah, entre parenthèses, astaghfirullah, 3 fois. Ensuite, il a dit, non, je te force, et il l'a marié. Supposons. Khlas. Maintenant, est-ce que cette chose pareille peut être un délil pour quelqu'un qui va dire « Je peux marier ma fille de force. Je vais faire comme Abu Bakr Siddiq. » Est-ce que ça peut être un délil? On va dire « Malgré cela, ce n'est toujours pas un délil. » Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que cette chose, naam, cette haditha, naam, cette chose qui s'est passée, ça s'est passé à la Mecque. À la Mecque. C'est à la Mecque que Aïcha radiallahu ta'ala anha avait 6 ans et que son père l'avait marié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoique, entre parenthèses, la consommation a eu lieu à Médine. Mais le mariage, il a eu lieu où? À la Mecque. Tayyib. Et le hadith qui dit la femme, la fille vierge ne se marie qu'avec son consentement, il a été dit où? À la Mecque ou à Médine? Il a été dit à Médine. Donc, le deuxième hadith que je viens de citer, qui dit que on ne marie pas une vierge sans son consentement, a abrogé le hadith où il s'est passé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé une fille sans son consentement. Non, sans que son père ne lui demande son avis. Je dis pas sans son consentement à elle, mais je dis sans que son père ne lui demande son avis. Tayyib, muslim, est-ce que vous avez compris? Il a un kabout, est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair jusque-là? Les autres, bien sûr, ils peuvent répondre, inshallah ta'ala, ils peuvent poser des questions après. Tayyib, muslim, tu es avec nous, inshallah? Je ne sais pas, peut-être qu'il a quitté la salle. Alhamdulillah. Tayyib. إذن إلى دي الشيخ لرحمه إذن القول الراجح نعم أن البكر المكلفة ك la fille qui est vierge et pubère il faut son consentement. D'ailleurs le hadith il est clair, la fille pubère il faut sans consentement. Et le hadith, inshallah ta'ala, est très, très clair. Naam. Ensuite, il a dit autre chose, Cheikh Ibn Huzaym al-Rahmo, en parlant que ceux qui se sont basés sur l'histoire de Abu Bakr qui a marié sa fille sans son consentement. Il va dire, نَحْنُ نُوَفِقُكُمْ إِذَا جِئْتُمْ بِمِثْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَبِمِثْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا. وَهَلْ يُمْكِنَ أَنْ يَأْتُوا بِذَلِكَ؟ لَا يُمْكِنُ. إِذًا نَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ كَيْفَ نَأْخُذُ بِهَذَا الدَّلِيلِ الَّذِي لَيْسَ بِدَلِيلٍ. نعم. Il a dit, si nous on va être d'accord avec vous, on va marier notre fille sans consentement. On va faire comme a fait Abu Bakr avec Aïcha. Mais à condition. Vous savez quelles conditions? Il faut que vous nous apportiez une fille comme Aïcha. Et un homme qui va l'épouser comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Apportez-nous une fille qui a le comportement de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, avec qui va se marier avec quelqu'un comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va alors la marier sans son consentement. Mais d'où vous pouvez nous ramener un couple pareil? D'où vous pouvez nous ramener un couple pareil? Et il a dit, le hadith, il est là, clair et sahih. La tunkahu al-bikru hatta tusta'zan. La vierge ne se marie pas jusqu'à ce qu'elle consente. Hadith clair, Bukhari, Muslim, on ne peut pas sauter dessus. La vierge ne se marie pas jusqu'à ce qu'elle consente. Naam. Car il a dit, maintenant, si on pouvait la forcer, alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanderait son avis? Ça devient quoi? Ça devient abeth, ça devient du... Si on est en train de jouer, je viens à ma fille, je lui dis par exemple, Muslim, alhamdulillah, veut demander ta main. Je lui dis, Muslim, alhamdulillah, veut demander ta main. Est-ce que tu acceptes? Par exemple, elle dit non. Muslim, ne t'énerve pas. Par exemple, elle va dire non. Je ne veux pas me marier avec Muslim, alhamdulillah. Subhanallah al-Azim. Et ensuite, je vais la forcer et elle va se marier. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi lui ai-je demandé son avis? Je lui ai demandé son avis. Elle a dit non, je ne veux pas. Subhanallah. Et maintenant, je vais la forcer. Alors, pourquoi lui demander son avis? Autant la marier directement. Ce n'est pas la peine de demander son avis. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné de demander son avis. Naam. Ça, c'est du côté de la sunna. Maintenant, si c'est du côté du raisonnement, on va voir seulement par raisonnement. Par raisonnement, وَأَمَّا النَّظَرْ فَإِذَا كَانَ الْأَبُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَبِيعَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ لِبْنَتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَكَيْفَ يُجْبِرُهَا أَنْ تَبِيعَ خَاتَمًا نَفْسِهَا. Subhanallah al-Azim. Regardez ce qu'a dit Cheikh ici, rahimahullah. Ça devrait s'écrire en or. Il a dit, par raisonnement seulement, si en islam, le père n'a pas le droit de vendre une bague en fer, c'est pas en or, une bague en fer de sa fille. En islam, le père ne peut pas prendre une bague de sa fille en fer et la vendre. Comment alors pourrait-il lui vendre sa bague, l'autre bague? Vous connaissez ce que je veux dire par l'autre bague. Subhanallah al-Azim. Comment une bague en fer qu'on peut jeter, il n'a pas le droit de vendre sans le consentement de sa fille? Comment se fait-il qu'il puisse vendre sa bague, l'autre bague, qui est la chose la plus chère en elle? Subhanallah al-Azim. Naam. Et là, se trompent beaucoup de pères quand, yani, ils demandent la dot pour la fille et ils croient que cette dot leur revient à eux. Oh, ils disent, Masha'Allah, moi, ma fille, je vais la vendre, Inch'Allah Ta'ala, aux enchères. Naam, je vais la vendre aux enchères. J'attends, hein. On me donne 1000, je dis non. Jusqu'à ce qu'il vienne 2000, je dis non. 3000. Et comme ça, pourquoi? parce que l'argent, c'est lui qui va les prendre. Subhanallah, c'est lui qui va prendre l'argent. Il ne sait pas que c'est l'argent à elle. Il croit que c'est son argent. Naam, il dit, j'ai vendu ma fille, mashallah, elle m'a rapporté de l'argent. Oh, ça a marché cette fois, le marché marche bien. La marchandise a marché, alhamdoulilah. Ça marche, ça se vend bien la marchandise. Alhamdoulilah. Naam. Il a dit, donc, al-qawlu rajih. Conclusion, on va faire la différence entre la vierge qui est pubère et celle qui n'est pas pubère. On commence par celle qui est pubère. Celle qui est pubère, il faut absolument demander son avis. Classe. Maintenant, on met ça de côté. On ne parle pas de cette chose. Elle est pubère, elle a les monstrues, elle a les signes, vous connaissez les quatre signes. Akhlas, c'est pas la peine de parler beaucoup. Celle-là, personne ne peut la marier, sauf si elle dit j'ai accepté ce mariage. Maintenant, on va parler de qui? On va parler de la vierge qui n'est pas encore pubère. Elle a 6 ans, elle a 7 ans, elle a 8 ans, elle n'est pas encore pubère. Il a dit, wa ghayrul mukallafa, celle qui n'est pas pubère, ou allati lam allati tamma laha 9 sinin. Pardon, ou amma ghayr mukallafa, ou allati tamma laha 9 sinin. Naam, elle a par exemple 9 ans. Naam, fa hal yushtarat ridaha aw la. Est-ce que celle-là, on lui demande son consentement ou pas? Il a dit, as-sahihu annahu yushtarat ridaha. As-sahih, naam, le plus juste, c'est que, ayant 9 ans, on doit lui demander son avis. La fille qui a 9 ans, on veut la marier à l'âge de 9 ans, on doit lui demander son avis. لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح. Parce que la fille, ayant déjà 9 ans, quand elle est rentrée dans la 9e année, ses désirs ont commencé et ses tentations ont commencé à avoir lieu. Elle commence déjà à sentir ce que sent quelqu'un qui est pubère. Elle commence à avoir des désirs déjà. Et déjà, elle commence déjà un peu à penser au mariage. Déjà à l'âge de 9 ans, déjà elle se dit déjà, Annie, quand je serai grande, je ferai ceci, je ferai cela, j'habiterai par ceci, je me marierai avec celui-là et comme ça. Déjà à 9 ans, certaines disent cette chose. Il a dit, فَلَبُدَّ مِنْ إِذْنِهَا. Donc, on doit lui demander son avis. Et ça, il a dit, هُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إِبْنْ تَيْمِيَا. C'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui a, choisi ça. Il a dit, وَهُوَ الْحَقِّ. Et c'est le plus vrai. وَأَمَّا مَنْ دُونَ تَسْحْسِنِينَ فَلْيُرْ تَبَرْ إِذْنُهَا. Et maintenant, si elle n'a pas 9 ans, elle a moins de 9, 8, 7, 6, 5, comment qu'on va faire? Il a dit, est-ce qu'on lui demande son avis? يقولون من دون تسع سنين ليس لها إذن محتوى. Cheikh Adillah Ahmou, ils ont dit que si elle n'a pas 9 ans, c'est pas la peine de lui demander son avis. لأنها ما تعرف النكاح شيئا. لأنها, elle ne connaît rien dans le mariage et rien dans les désirs. وقد تأذن وهي لا تدري. Et elle peut dire, si on lui demande son avis, elle a 6 ans, on lui demande son avis, elle peut dire oui, j'ai accepté, alors qu'elle ne sait pas de quoi on parle. Elle n'a jamais compris ce que c'est le mariage, ni elle n'a pensé à ça une fois dans sa vie. Ensuite, son père lui dit, X veut te marier avec toi, tu acceptes? Elle dit, oui, bien sûr, j'accepte. Oh, j'accepte, c'est normal. Alors qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle dit, oh, j'accepte, naam, oh, j'accepte. Allah l'adim, astaghfirullah, alors qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit, naam. Il a dit, c'est pour ça qu'on ne lui demande pas son avis. طيب, فليس لا إذ محتبر, ولكن هل يجوز يبيع الزوجة فيها. Mais est-ce que dans ce cas, son père peut la marier? Est-ce que dans ce cas, son père peut le marier, c'est-à-dire même si c'est son consentement? Naqul, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, Naqul, al-asl adam zawaj. La base, c'est quoi? C'est que, adam zawaj, pardon. La base, c'est qu'on ne peut pas la marier. On ne peut pas la marier sans son avis. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la tunkahul bikru hatta tusta'dhan. Le prophète Al-Islam a dit, la vierge ne se marie pas jusqu'à ce qu'elle consente. Et celle-là, c'est une vierge. Maintenant, elle a 5 ans, ou là, elle a 10 ans, c'est une vierge. Je ne dois pas la marier jusqu'à ce qu'elle consente. Naam. لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها مستدلا بحديث عائشة etc. On a dit nous la différence entre ça et ce qui s'est passé à Aïcha رضي الله تعالى عنها. نعم. لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء. Maintenant supposons que le père de cette fille qui n'a que 7 ans par exemple ou 6 ans ou 8 ans, نعم, cette fille qui est jeune, supposons que son père lui ait trouvé un bon parti. Son père, supposons qu'il lui ait trouvé un bon parti. Et il s'est dit, subhanallah al-azim, si ma fille se marie avec celui-là, je suis sûr, bi'idhnillah, qu'elle sera heureuse. Il a le din, il a le comportement, il est bon, il a de l'argent. Subhanallah al-azim, cette personne, elle a le din, elle a le comportement. Et elle est aisée, masha'Allah. Elle est aisée. Et elle est bien de physique. Il a dit, est-ce que dans ce cas, et aussi, le père, ce père sait que s'il meurt, car il est assez âgé, s'il meurt, la fille alors, la tutelle de sa fille, sera entre ses frères, entre les mains de ses frères à elle, de ses fils à lui. Il a dit, et ils vont jouer avec cette fille. Ils vont jouer avec elle, et ils vont pas lui chercher celui qui lui convient. Est-ce que, et bien sûr, ils vont la marier d'après leur tentation à eux. Il a dit, est-ce que dans ce cas, son père peut le marier sans son avis? Regardez la réponse du Cheikh, rahimahullah. Je répète la question. Son père, elle est jeune, elle a 6 ou 7 ans. Et son père lui a trouvé quelqu'un qui fait un bon conjoint. Comme j'ai dit, il a le din, le comportement et l'argent, mashallah, il est beau. Et il sait que ce père ne lui reste pas longtemps pour mourir. Naam. Il a dit, est-ce qu'il peut, le marier sans lui demander son avis, bien sûr. Est-ce qu'il peut marier elle, sans lui donner son avis, sans demander son avis. Ici, Cheikh a dit, Allah irhamou, فَإِنْ رَأَ الْمَصْلَحَةَ فِي أَنْ يُزَوِّجَهَا مَنْ هُوَ كُفْءٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. Il a dit, Inch'Allah ta'ala, s'il la marie, sans son consentement, mais à cause de ce qu'on vient de dire maintenant, il a dit, c'est possible. Pourquoi? Parce que son père ici ne lui veut que les intérêts. Ses intérêts à elle. Attention, il ne l'a pas mariée pour avoir un gendre riche. Il va dire, je la marie avec celui-là, il est riche, mashallah, il va me faire sortir de la boue. Il va me faire sortir des pétrins que j'ai financiers. C'est pour cela que je veux la marier avec moi. Non, pas du tout. Il l'a marié pour ses intérêts à elle. Il a dit, celui-là, il a le din. Il a le din et le comportement. Et mashallah, il est aisé financièrement. Et moi, j'ai peur de mourir. Et mes enfants, mes fils, je sais qu'ils ne vont pas être sérieux pour son mariage. Et je l'aime beaucoup, ma fille. Donc, je vais la marier dès maintenant pour son intérêt. Vous voyez comment il a pensé son père. Il n'a pas vendu sa fille. Ce n'est pas un beaucoup. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, dans ce cas, il peut la marier sans son consentement. Sans le musulman. Où est-ce que j'étais exactement? Jazakallahu khairan, celle qui m'a envoyé le message pour m'avertir, parce que je savais pas que j'étais déconnecté. Je parlais de quoi? Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que vous avez entendu la dernière des choses? Muslim, je te donne le micro pour me répondre, inshallah ta'ala. Jazakallahu khair. Barakallahu fik. Naam. Je t'ai donné le micro. N'oublie pas que tu es dans l'affaire, toi. N'oublie pas que tu es dans l'affaire avec nous du mariage. Naam, c'est pour ça que je t'ai donné le micro. Donc, c'est le père qui parlait, c'est-à-dire moi qui parlais de l'intérêt, hein, l'intérêt de ma fille. D'accord. Inshallah, on va voir. Il a dit ici, « J'ai dit que si le père veut marier sa fille, mais vraiment, vraiment, vraiment pour ses intérêts, pas pour son intérêt à lui, et de se dire, je la marie avec celui-là, il est riche, il sera mon gendre. Il va me faire sortir des problèmes financiers. Donc je la marie avec celui-là. Non, celui-là, il l'aime beaucoup. Il a peur que s'il ne la marie pas maintenant avec cette personne, ses fils vont la marier avec n'importe qui parce qu'ils n'ont pas le din et ils ne vont pas prendre comme critère le din. Donc s'il ne la marie pas, elle risque de se marier avec n'importe qui. À cause d'eux, ils vont la marier avec n'importe qui. Est-ce que celui-là, il peut la marier yani, sous cet angle? Il a dit, Cheikh Lahmou, la baisse, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mal, s'il la marie, yani, sous l'angle qu'on vient de citer. Mais il a dit, quand elle sera pubère, elle choisira entre consommer le mariage avec cet homme ou pas. Parce qu'en fait, quand il va la marier jeune à 6 ans ou 7 ans, elle ne va pas consommer le mariage. Surtout de nos jours. De nos jours, il n'y a pas une fille de 6 ans, 7 ans qui se marie. Mais, il a dit, il la marie, mais quand, après elle sera pubère, elle choisira. Elle choisira entre continuer ce mariage ou bien l'annuler. Parce qu'elle est devenue pubère, elle a le droit de choisir. Et n'oubliez pas le hadith sahih, où une femme, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père l'a mariée sans son avis. Elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé son mariage. Il lui a dit que tu étais libre de choisir. Tu continues ou tu termines. Et qu'elle avait dit, je termine ce mariage, mais c'est juste pour que les femmes à peu près, ou là les gens, ou là les pères, sachent qu'ils n'ont pas le droit de forcer leur fille dans le mariage. Il a dit, on a dit que, il n'y avait pas de mal à la marier, si c'est le cas qu'on vient de citer. Mais de préférence, il ne la marie pas. Il faut faire la différence entre il peut et entre ce n'est pas conseillé. Naam, ja'iz wa ghair mustahab. Il a dit, ce n'est pas conseillé pour un père de marier sa fille, mais de préférence, il la laisse. À qui? Il la laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il la laisse, il plaît, il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il a dit, فَرُبَّمَا أَنَّهُ الْآن يَارَ هَدَ رَجُلَ كُفْرًا ثُمَّ تَتَغَيَّرْ حَالُ الرَّجُلَ. Il a dit, c'est possible que le père qui vient de donner une tazkiyah au prétendant et qu'il a dit qu'il était masha'Allah, il a vu qu'il était masha'Allah le prétendant et que quoi? Et qu'il remplissait ses conditions. Naam. Il a dit, mais c'est possible que quoi? Que l'état ou le comportement de ce prétendant change. Naam. On est tous sujets à changer. Qu'est-ce qui prouve que moi d'ici demain je ne vais pas changer? Et toi, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas changer? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup, Rabbana, لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Disait beaucoup, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Naam, il demandait beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir son cœur dans le din. Naam. Pourquoi? Parce que les gens peuvent changer. On peut vite changer du matin au soir. Naam. Il a dit donc, il vaut mieux ne pas le marier avec cette personne car cette personne risque de changer après. Maintenant, il l'a marié avec elle et il est mort. Et voilà, la personne a changé. Là, elle s'est éloignée du din, elle ne fait plus la prière à l'heure, ou alors elle ne la fait plus du tout, elle boit de l'alcool, ceci, cela. Non. وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. Et mieux que cela, pourquoi il ne la marie pas? Non. Peut-être que Allah Ta'ala, quand elle va grandir, il va lui faire venir un prétendant mieux que celui-là. Naam. D'où sais-tu toi que c'est seulement celui-là qui la convient. Laisse-la. Laisse-la, dame, mais la confiance en Allah Ta'ala. Et laisse-la entre les mains d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peut-être que Allah Ta'ala va lui envoyer quelqu'un beaucoup mieux que celui-là. Naam. Il a dit, donc c'est ça, Inch'Allah Ta'ala, le conseiller. Voilà, il peut, mais c'est conseillé qu'il ne le fasse pas. J'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Il y aura beaucoup de choses à dire aussi dans le prochain DAS. Nous sommes seulement à la page 59. Alors que le livre, hein, il contient 500 et combien de pages? Naam. Attendez, combien de pages? 496 pages. Muslim, alhamdoulilah. Mais le Coran que tu mettais tout à l'heure, où le jeune a d'agressité, on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل مسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله جميعا ناتون 237 اخي اسماعيل حياك الله تفضل
ورحمه الله وبركاته في صوت الشيخ محمد نعم من فضلك عندي سؤال بخصوص حديث من فضلك أنا أريد أعرف من فضلك كيف نحن نعرف حديث en fait ce que je voudrais bien savoir c'est à propos des ulama comment peut-on reconnaître un hadith sahih d'un hadith sahih Et lorsqu'on lit un hadith, comment savoir s'il est sahih ou non? C'est ce que je voulais savoir, Barakallahu fik. Et je voulais savoir si je pourrais te parler en privé, Inch'Allah. Je t'ai mis dans mes contacts, Barakallahu fik. À toi le mec, ta fadda.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, en ce qui concerne le hadith sahih, ce n'est pas nous, qui pouvons savoir si le hadith est sahih ou pas. Parce que, tout simplement, on n'a pas ce niveau. Il y a des ulamas qui, en disant, passé toute leur vie à chercher dans cette matière, c'est eux qui nous disent que ce hadith, par exemple, est sahih ou n'est pas sahih. Pourquoi? Parce que le hadith, pour qu'il soit sahih, il doit remplir 5 conditions. Il faut qu'il soit muttasal sanad, et il faut qu'il ne comprenne ni shudouz ni illa, et il faut que l'enchaînement, qu'est-ce qu'il soit? Il soit adl. Naam. Il soit adl et tam ad-dabt. Donc, trois conditions dans la chaîne de retransmission et 2 conditions dans les hommes. Les hommes, il faut qu'ils soient intègres d'un côté, c'est-à-dire qu'il n'est ni pervers, ni encore bien sûr moins kafir. Et de l'autre côté, l'homme qui se trouve dans la chaîne, il faut qu'il soit, yani, tam zabt. Yani, il a une mémoire, si je puis dire, yani, tamma. C'est pas le genre qui te dit quelque chose, puis demain, il dit je me suis trompé, je voulais dire cette chose et non pas l'autre. Naam. Donc, et ça c'est dans les hommes. Et dans le hadith lui-même, il faut qu'il ne soit ni chèvre, ni il a une illa, c'est-à-dire une cause, ni, yani, il y a une qita. Mais il faut qu'il soit musnadam, yani, qu'il y ait, yani, enchaînement entre lui. Naam. Tayyib. Donc, qui va savoir tout ça? Donc, quand je vais lire, حدثنا X, il a dit حدثنا X, il a dit حدثنا Y. Ce Y, moi, d'où je le connais? Il faut que je connaisse sa vie, qu'on dit les ulama sur lui, et comme ça, pour pouvoir dire, ensuite, c'est le hadith et sahih, etc. Donc, ces choses-là, yani, on ne peut les savoir que ce sont les ulama qui disent, bidna ta'ala, que ce hadith est vrai ou pas. Nous, on est seulement presque des imitateurs en ces choses. Naam. Pour le PV, franchement, je ne sais pas, après le DAS, mais il est possible que ça soit, par exemple, un autre jour. Naam. Car, yani, maintenant, beaucoup de gens me retiennent après le DAS, et moi je travaille le lendemain, etc. C'est pour ça que ça m'est un peu difficile. Naam, ça m'est un peu difficile. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, mais inshallah ta'ala, on retrouve. Mais je tenais à en faire mes excuses. Inshallah ta'ala, Ismaïl, naam, tu es bi'idhna ta'ala comme mon fils. Et tu es d'abord un frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, moi, ce que les nasa'ih que je te donnais, c'était bi'idhnillah ta'ala pour ton bien. Et pour aller au paradis et pour ne pas tomber dans l'enfer demain quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai lu ton mail, naam, inshallah ta'ala, tu es pardonné, bi'idhna ta'ala, inshallah ta'ala, tu es toujours un frère, naam. Et je vous ai dit, j'ai dit au frère Ismaïl et je vous dis à vous tous que, yani, la faute la plus grave que vous passiez, que vous fassiez dans le paltok, c'est de rentrer dans les salles de takfir. La faute la plus grave. Naam. Toi, Ismaïl, je t'ai jamais dit une chose, mais beaucoup de gens m'envoyaient. Naam, m'envoyaient, comme ça en PV, ils me disaient, attention, celui-là, c'est-à-dire de toi. Attention, celui-là, il est tout le temps dans les salles de takfir. Attention, cher, bossez-le, Moi, je t'ai jamais bossé, tu as remarqué. Je t'ai jamais bossé. Cher, bossez-le, Naam. Ça, allait devenir une étiquette sur toi. Alors que toi, Inch'Allah ta'ala, comme tu l'as dit toi et moi je le sais, tu as une niya, Masha'Allah, tu es sincère, tu voudrais y en y rentrer, ce n'est pas parce que tu veux le takfir, mais tu rentres dans le salle, tu voudrais que Allah ta'ala unisse entre tous les musulmans, etc. Naam, Masha'Allah pour ta niya, mais la niya ne suffit pas. Tu rentres avec cette niya, et voilà, tu te trouves avec le virus, et tu te trouves avec eux, et voilà, tu vas dire, les ulama sont kafar, tout le monde est kafir, etc., sans que tu le veuilles, toi. Moi, je voulais te vacciner, et te prévenir, avant que tu ne tombes dans le piège, ensuite, c'est trop tard, pour te sauver, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam, ton vœu le plus cher, c'est que tous les musulmans soient unis. Naam, mais, sache que ton vœu, qui est mashallah, ne peut pas contrer la volonté universelle d'Allah Ta'ala. Car Allah Ta'ala a dit qu'ils resteront comme ça désunis jusqu'à la fin du monde. Naam. Allah Ta'ala a dit, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً. Si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait fait de tout le monde, yani une union. Mais Allah Ta'ala a voulu une volonté universelle, bien sûr qu'il n'aime pas, que les gens soient comme ça dispersés et qu'il y ait entre eux des guerres, etc. C'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir quel est celui qui est du côté d'Allah et quel est qui est celui qui est du côté du shaitan. Quel est celui qui est du côté du prophète, quel est celui qui est du côté de la bid'a. Et comme ça. Jazakallahu khair ya Nathan, barakallahu fik, wa ahsanallahu ilayk. Inch'Allah, on parlera très bientôt dans le téléphone.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. J'étais demandé en mariage, mais mon futur mari habite à l'étranger. Le seul moyen de communication pour l'instant, c'est le téléphone ou Internet. Je voulais savoir si c'était autorisé de se parler par téléphone ou par Internet pour éviter tout malentendu avant le mariage. Barakallahu fik.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Moi d'abord, je pose la question. Est-ce qu'ils ont fait l'acte de mariage? J'attends, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Pas encore. Naam, ils n'ont pas le droit de parler. Ni dans le téléphone, ni dans Internet. Naam, s'ils veulent parler, il faut que ça soit en la présence du mahram. Naam, c'est une femme étrangère pour lui. Tant qu'il n'a pas fait l'acte de mariage, c'est une étrangère, comme celle qui passe dans la rue. Je n'ai pas le droit d'aller dans la rue, dans une femme, vers une femme et lui dire, voilà, qu'est-ce que tu penses, on va se marier, on fait ceci, on fait cela. Mais je parle avec qui? Avec son tuteur. Maintenant, si son tuteur accepte, naam, il est là devant le téléphone, naam, il parle avec l'homme, ensuite il peut lui passer, lui dire deux mots là, c'est possible. Mais rester comme ça, discuter, alors que ils n'ont rien fait, c'est interdit parce que ce sont des étrangers. Naam, ce sont des étrangers. S'ils font ça devant Internet ou le téléphone, qu'ils le fassent avec la présence du mahram, qui écoute ce qu'ils sont en train de dire. Tfadhal Umm Bilqis.
Salam alaykoum. Pourquoi une musulmane ne peut-elle pas se marier avec un juif ou un chrétien? De nos jours, beaucoup de femmes transgressent cette loi. Qu'en court-elle? Barakallahu fikoum et afwan si c'est hors sujet.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce n'est pas hors sujet puisque on parle de mariage. Tant qu'on parle de mariage, ce n'est pas hors sujet. Naam. La musulmane ne peut pas se marier avec le juif ou le chrétien parce que il peut, s'il ne la fait pas rentrer dans son din à elle, il peut l'affaiblir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Naam. Mais la musulmane, mais le musulman peut se marier avec la chrétienne parce que c'est lui le mari, c'est lui qui commande. Premièrement. Deuxièmement. Quand une musulmane se marie avec un chrétien ou un juif, hein, le chrétien et le juif ne reconnaît pas la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'insulte. Et il dit celui-là, il aimait les femmes, celui-là, ceci, celui-là, cela. Alors que le musulman, quand il se marie avec la chrétienne et la juive, en lui parlant de son prophète à elle, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que la paix soit sur lui. Non, si elle parle de Moïse, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam. Et si elle est chrétienne, elle parle de Jésus, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand c'est une musulmane chez un juif, si elle dit Mohammed, il lui dit celui-là, il n'aime que les femmes, il a fait ceci, il a tué, il a ceci. Non, et il l'insulte. Non, et il ne lui donne pas les droits que Allah Ta'ala lui a donnés. C'est pour ça que en islam, chaque femme, voilà, maintenant c'est la réponse à la deuxième question. Concourt-elle? Toute musulmane qui est mariée avec un juif ou un chrétien, elle ne sort pas de l'un des deux cas. Je répète, toute musulmane qui est mariée avec un chrétien ou un juif ou un autre, un kafir, elle ne sort pas de l'un des deux cas. Ou bien elle est kafira, ou bien elle est zaniya, fornicatrice. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, zaniyatu la yankihuha illa zanin ou mushrik. Il a dit avant ça, zani la yankihuha illa zaniyatin ou mushrika. Naam. Donc, si elle reconnaît que c'est interdit qu'elle se marie avec un juif et un chrétien, et elle s'est mariée, elle est dans la zina. Et si elle ne reconnaît pas, elle dit non, ce n'est pas interdit de se marier avec un juif et un chrétien. Elle est kafira. Tayyib. On passe sur Allah Ta'ala, Abdul Haq, tafadhali.
Abdul Haq, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Wa rahmatullah.
Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fi sawt. Naam. Abdul Haq. Si tu te rappelles bien, Inch'Allah Ta'ala, la fois passée, j'avais répondu que, bien sûr, après j'ai dit, je vais demander mieux. J'avais répondu que normalement, elle devait attendre ses règles. Naam. C'est venu d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça a retardé, ça arrive. Comme ça arrive le contraire. Comme une femme peut avoir, dans le même mois, une femme peut avoir deux fois les règles. Et si je me trompe pas, je vous ai dit qu'une fois, il s'est passé qu'une femme a eu trois fois les règles en un mois. Je crois, mais deux c'est sûr. El Mohim, c'est ce que j'avais dit, Inch'Allah Ta'ala. Quand une femme en islam trouve que ses règles n'existent plus, hein, ses règles sont parties, disons, ou se sont arrêtées brusquement comme ça, et elle est jeune, elle n'est pas en ménopause, elle est jeune, elle a 26 ans, elle a 30 ans. El Mohim, on demande. Est-ce qu'elle sait pourquoi ou elle ne sait pas? Si elle sait pourquoi, par exemple, elle a fait quelque chose comme ça pour que, je ne sais pas comment ça s'appelle, je l'ai dit une fois, une courage de je ne sais pas quoi, et elle ne va plus avoir les règles. Non, elle ne va plus avoir les règles. Celle-là, elle doit se baser sur les mois. Elle se basera sur 3 mois. Mais si maintenant, elle ne sait pas pourquoi les règles sont parties, elle doit attendre une année avant de se marier. Elle doit attendre une année avant de se marier. Moi, pour être plus sûr, elle les a, mais parfois pendant 4 mois, elle ne les a pas. Naam, Oum Abdelhaq. Mais, puisqu'elle sait que, Inch'Allah Ta'ala, pendant, dans 4 mois, elles vont venir, elle attend. Pourquoi? Parce que l'islam a dit que elle doit attendre jusqu'à 1 an pour se marier. Le maximum, il a dit, c'est 1 an. Celle-là, c'est seulement 4 mois. L'islam a dit, elle attend 1 an. Quand il n'y a pas, après 1 an, elle n'a rien, elle fait quoi? Elle fait 3 mois. Elle fait ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ça? Elle commence sa période de viduité et elle se marie. Et elle se marie. Non. Donc elle attend 1 an. Pourquoi? 9 mois pour l'enceinte, pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte, et trois mois à cause de la viduité. Ça donne 1 an. Donc moi, pour être plus sûr, j'ai posé la question au frère Abdelmalik Ramadani, hafidhahullah, comme je t'avais promis, inshallah ta'ala, et il m'a dit que il ne connaissait pas la réponse de cette question. Non, il m'a dit, je ne sais pas, Allahu a'lam, je lui ai dit, donc elle l'attend jusqu'à ce que les règles viennent, il s'est tu. Non, il a dit, Allahu a'lam, il s'est tu. Tayyib, Oum Issa, tafaddali. Inch'Allah, elle attend. Non, c'est mieux.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, j'ai été déconnecté, donc si la question a été postée, je la vois pas. Afouane. Donc si vous pouvez refaire un copier-coller. Barakallahu fikoum. Assalamu alaykoum. Quel est le jugement sur une personne qui met un petit Coran en dessous du siège de son bébé ainsi qu'en dessous des coussins de ses enfants pensant que cela va les protéger? Barakallahu fikoum.
Naam. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Salam wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Mettre le Coran en dessous du siège de son bébé, c'est ne pas avoir respecté le Coran au fait de le mettre sous un siège. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le Bukhari, un juif est rentré chez lui. Et quand le juif, qu'est-ce qu'il est? La Torah, ça? Quand, je sais pas ce qui s'est passé, il l'a posé comme ça par terre, le prophète Islam l'a levé et l'a mise sur un coussin. C'est-à-dire, la Torah qui est quoi? Qui est déformée. Alors, qu'en est-il maintenant du Coran? Ensuite, le mettre sous les coussins, non, sous les coussins quand les enfants dorment, ça rentre dans la bida. Naam, ça rentre dans la bida. Le Coran a été descendu pour qu'on le lise et qu'on l'applique, et on applique la sharia qu'il y a à l'intérieur. Et on applique les règles qu'il y a à l'intérieur. Et il n'a pas été descendu pour le tabarrok, c'est-à-dire pour l'essuyer, et ou là pour l'embrasser, ou là pour l'enlacer, ou là pour le mettre dans nos vêtements, ou là sous les coussins, ou là sous les chaises. Barakallahu fikum. Je suis sûr que cette sœur a fait cela avec une bonne niya, et qu'elle ne connaissait pas le jugement, et croyait que ces choses-là se faisaient. Naam, tu lui dis, inshallah ta'ala, que ça rentre dans le bida, la bida, et que le Coran n'est pas descendu pour qu'on fasse de lui ces choses-là. Naam. Tfadla al-khair, inshallah.
Assalamu alaykoum, cheikh. Vous avez parlé de la responsabilité du père. Alors que faire quand il refuse les prétendants pour sa fille à cause de leur origine, pas du même pays? Doit-elle l'écouter? Barakallahu fik, cheikh.
Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai dit la fois passée que ce que fait le père quand il empêche sa fille de se marier avec quelqu'un qui remplit les conditions, qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a fait des péchés. Et que demain Allah Ta'ala, hein, il aura des problèmes quand il rencontrera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hein, car Allah Ta'ala lui dira que cette fille ou cette femme, avant qu'elle soit ta fille, c'est l'une de mes créatures. c'est moi qui l'ai créé. Naam, ce n'est pas toi qui l'ai créé, ni toi, ce n'est pas toi qui l'as créé, ni toi qui l'as construit. Tu n'as pas acheté de la pâte à modeler et tu as construit, tu as formé comme ça une femme. Naam, c'est moi qui l'ai créé. Donc, tu ne devais, yani, te comporter avec elle que d'après ma charia, d'après mes lois. Et mes lois disent que si quelqu'un vient chez vous et qu'il a la religion et un bon comportement, mariez-le avec. Mariez-le avec votre fille. Et toi, subhanallah l'adim, à chaque fois que quelqu'un vient et remplit les conditions, tu veux pas marier ta fille. Alors aujourd'hui, je vais te rentrer en enfer pour gagner ce péché. Sauf bien sûr si Allah Ta'ala veut lui pardonner. C'est pour ça que je vous ai lu la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, qui dit que normalement, dans un pays musulman, quand le père ne veut pas marier sa fille avec quelqu'un qui remplit les conditions, elle va au juge. Le juge musulman, Naam, qui, elle va se plaindre, qui va convoquer son père pour ou bien le forcer à qu'il la marie, ou bien pour lui enlever la tutelle. Et il donne la tutelle à son fils, ou là à son frère, ou là et comme ça. Sinon, c'est le juge lui-même qui la marie. Maintenant, reste une chose, la fille qui veut maintenant se marier parce que cette personne remplit les conditions, est-ce que elle est capable d'accepter ce qui va s'engendrer après ce mariage? Car lorsqu'elle va se marier avec ce frère qui remplit les conditions et dont le père n'a pas accepté, qu'est-ce qui va s'engendrer? Il va s'engendrer que toute la famille va parler d'elle. Alors le père, il va la renier. Il va dire, celle-là n'est plus ma fille. Je veux jamais entendre parler d'elle. Sa mère, sûrement, elle sera aussi du côté de son père. Et peut-être toute la famille va la renier et va avoir beaucoup de problèmes. Maintenant, si elle peut, yani, supporter tout ça, cela, c'est son affaire. Je voudrais vous dire seulement que j'ai toujours conseillé les filles et les femmes de faire le maximum de doua et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de convaincre leur père. Car les cœurs de toutes les créatures, de tous les êtres humains, sont entre deux jolis doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les renverse comme il veut. Allah ta'ala, s'il veut, aujourd'hui tu dors et ton père t'a dit, jamais, 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 je ne voudrais entendre parler de ce prétendant. Et le matin quand il se lève, il t'appelle, il te dit, fais-moi un café, j'ai envie de boire un café. Ensuite il te dit, voilà, j'ai réfléchi hier, si tu veux te marier avec lui, barre-toi. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire. Donc, tu vois comment il peut changer d'une nuit à l'autre, d'une seconde à l'autre. C'est Allah Ta'ala qui le fait changer. Mais, d'abord, j'oublierai pas de te dire une chose, comment qu'on le convainc, ou bien en parlant avec lui, ou bien en disant à notre mère de lui parler. Subhanallah l'adib, c'est sa femme. Il y a des moments où l'homme devient très faible devant sa femme. Surtout quand ils sont dans les choses intimes. C'est là qu'elle profite pour lui parler. Elle peut aussi faire venir, par exemple, des gens qui le respectent. Elle sait que, par exemple, sa tante, il la respecte beaucoup. Donc elle parle à sa tante. Elle parle à sa voisine. Elle parle à l'imam qui vient lui parler. C'est elle qui sait. Moi, je sais pas quel est celui qui influe sur son père. Pour vous dire cela, dernièrement seulement, ça fait peut-être 20 jours, une sœur du Sénégal m'a envoyé une lettre me disant que mon père accepte tout, sauf ce prétendant qui remplit les conditions avec lequel je voudrais me marier. Je lui ai fait beaucoup de doigts et essaye de faire venir quelqu'un pour le convaincre et fait beaucoup de doigts. Avant-hier, elle m'a écrit. Elle m'a dit, Cheikh Barakallahu Fikoum, j'ai pris de vos conseils et mon père a accepté. Mon père a accepté le prétendant. Allahu Akbar. Naam. Ça, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, tfadla, inshallah, le prochain. Ahlul ilm, hayyakallah.
Assalamu alaykum. J'ai pour but de partir en Égypte apprendre le Coran et l'arabe, bi idnillah, dans quelques mois, inshallah. J'ai très envie de me marier, mais j'hésite car je n'ai pas envie de m'installer de suite. J'ai envie de me marier pour partir avec une sœur en Égypte, mais en revenant, je veux retourner chez mes parents pour préparer la hijra, inshallah. Car si je m'installe avec la sœur, je ne pourrai pas mettre autant d'argent de côté que chez mes parents, wallahu a'lam. Puis-je faire ceci si je trouve une sœur qui est d'accord en sachant qu'en revenant d'Égypte, je retourne chez mes parents et elle, c'est chez ses parents. Que me conseillez-vous, cher, et dois-je faire le hajj avant de partir en Égypte? Jazakallahu khayran wa hayakallah, cher, et désolé pour la longueur de la question.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Donc cette personne, avant de se marier, si elle trouve cette personne, ce frère, s'il trouve une sœur, il doit d'abord lui faire cette condition. Voilà, on va se marier. Voilà ma condition, on va se marier, on va aller en Égypte. Ensuite, quand on revient, tu vas rester chez tes parents, 6 mois, ou une année, ou 2 ans, je ne sais pas combien, jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour que on aille vers ce qu'il a dit, j'ai oublié, ou vers le Yémen, ou là, je ne sais pas. El Mouhim, il faut qu'elle sache ça auparavant. Si elle accepte, elle dit d'accord, mes parents acceptent, et je peux vivre chez mes parents, il n'y a aucun problème. Où est le problème ici? Mais attention, il faut qu'elle sache. Ce n'est pas, il lui cache cette chose, et quand il revient de l'Égypte, il la dépose chez elle, chez ses parents, pardon, et ensuite, il l'oublie. Et il l'oublie, il lui dit, la ghalib, j'ai pas où te faire habiter. Elle dit, c'est la première condition. La deuxième chose, de ce qui a rapport avec la fin de la question, quand une personne, naam, le hajj est arrivé, il ne doit pas laisser passer l'occasion. Il va pas dire, khalli l'an prochain, khalli khalli, sauf s'il a déjà commencé, par exemple, dans le mariage. Classe. Il a seulement un peu d'argent, et cet argent, il doit le donner comme dot à la fille, et il peut pas, s'il le donne, il peut pas aller au hajj. S'il va au hajj, il peut pas le donner comme dot. Et maintenant, il doit se marier. Celui-là, il peut commencer par le mariage. Alors, le mariage est très important. Et le hadith, il est dans le Bukhari. Lorsque le prophète, alayhi salam, qui s'appelle Yusha ibn Nun, lorsqu'il a voulu faire le djihad, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, 3 personnes ne doivent pas me suivre. Entre autres qui? Il a dit, 1 personne qui est fiancée avec une femme et n'a pas encore consommé le mariage. Non, celle-là ne doit pas me suivre dans le djihad. Pourquoi? Parce que cette personne ne va pas être sincère dans le djihad ni motivée. Elle va tout le temps penser quand est-ce que je consomme le mariage, quand est-ce que je consomme le mariage, quand est-ce que je consomme le mariage. Du matin au soir, il pense à la femme, à sa femme, à sa femme, à sa fiancée. C'est quoi le djihad? Le djihad, il faut que ton cœur soit, ne batte que pour Allah Ta'ala. Il faudrait pas que tu partes alors que tu es occupé par des choses comme ça, très très importantes. Donc, le hajj, c'est la même chose. Ils ont dit, commence par le mariage, ensuite le hajj. C'est-à-dire quand ils sont arrivés les deux à la fois. Et je n'ai pas comment faire les deux. Mais si l'occasion est venue du hajj, comme je dis, et que le mariage c'est dans une année ou là, et le hajj c'est maintenant, je commence par le hajj. Car le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam m'a dit, ne le laissez pas passer, car il se peut que quelqu'un tombe malade, ou bien, il a dit, il lui arrive des excuses. Pardon, c'est pas ça, c'est pas les excuses, c'est le contraire. Ça lui arrive des choses, qui le retiennent. Et ensuite, il n'ira pas au hajj. Ensuite, l'occasion sera passée. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadla, inshallah, le prochain. Hayyakallah, tafadla. Abdul Bar, tafadla. Elohim, avez-vous demandé? Elohim, je ne sais pas si je t'avais dit, mais je ne sais pas si tu le sais. La réponse, inshallah ta'ala, c'est seulement le mercredi ou jeudi, quand je demande à cette personne de science, je ne lui téléphone que le mercredi. C'est-à-dire que, inshallah, mercredi soir, puisqu'on a un dars, tu auras la réponse. Sinon, tu l'auras jeudi, inshallah ta'ala. Naam. Hayakallah, il n'y a pas de problème, inshallah. Tfadla, inshallah, le prochain.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour 2 personnes qui s'aiment. Comment une femme et un homme peuvent s'aimer avant le mariage? J'aimerais comprendre ce hadith. Barakallahu fikoum.
Naam, ce hadith, inshallah ta'ala, est très clair. Et ce n'est pas comme croient les gens que, puisque le hadith a dit comme ça, il n'y a pas de mieux, de meilleure chose pour les amoureux que le mariage. Donc il est possible en islam que je fréquente une femme et que, inshallah, je l'aime elle-même et après on se marie. Naam, ce n'est pas le sens du hadith. Ce hadith veut dire que aimer une personne, ça rentre dans la fitra. C'est une chose innée. C'est une chose des fois qui te dépasse. Ce n'est pas toi qui commandes ton cœur. Tu vois une personne, khlas, elle est rentrée dans ton cœur. Ce n'est pas toi qui commandes. Depuis ta jeunesse, ta voisine qui est en face de toi, qui est belle et remplit les conditions, et elle a le djilbeb, elle a ceci, khlas, tu l'as aimée dans ton cœur. Tu lui as jamais parlé, ni tu lui as fait un signe, ni tu lui as envoyé une lettre. Mais dans ton cœur, tu l'as aimé. Naam. Et elle, c'est réciproque. Elle te connaît, tu es en face d'elle, son voisin, son cousin, depuis qu'elle était jeune, elle t'aime dans son cœur. Elle te l'a jamais dit, tu lui as jamais dit. Pour vous deux, il n'y a pas mieux que le mariage. C'est ça le sens du hadith. Il n'y a pas mieux pour les amoureux que le mariage. Et ce n'est pas, il y a aller faire sa connaissance et sortir avec elle, aller au cinéma, aller au jardin, ensuite se marier avec elle. Naam, Inch'Allah ta'ala, qui m'a posé cette question, Inch'Allah ta'ala, est-ce que c'est clair, Inch'Allah ta'ala, son sens? Est-ce que c'est clair maintenant, Inch'Allah ta'ala? Qui m'a posé la question? Est-ce que c'est clair? Taïb, je ne sais même pas qui m'a posé. Ah, une sœur souhaitant rester anonyme. Masha'Allah, khalas, khalas, tayyib, khalas. Naam, Umm Idris, tafadla lik. Ou bien Abdelbar, tafadla. Abdelbar.
Salamu alaykum. Est-ce que dua, safar, peut être dite pour nos trajets domestiques, en voiture? Entre parenthèses, dab égale lézard. C'est une question.
Tayyib. Celui qui a perdu sa place, on le remet, Inch'Allah ta'ala, à sa place. On le remet, Inch'Allah ta'ala, à sa place. Tayyib. Donc, Sawri, il sera après Idris, Inch'Allah ta'ala. Pour le Dab, il y a le Dab et il y a le Dab'a. Naam, il y a deux, le Dab et le Dab'a. Et les deux ne sont pas le lézard. Le lézard, on appelle... Pardon, en arabe, ça s'appelle wazar. Voilà comment ça s'appelle le lézard en arabe. Wazar, wazar. C'est ça le lézard. Quiconque le tue la première fois, Allah Ta'ala lui donne 100 hasanat. Naam, cherchez dans vos maisons, si vous trouvez le lézard, celui qui le tue la première fois, du premier coup, il a 100 hasanat. Masha'Allah, 100 récompenses pour celui qui le tue de la première fois. S'il le tue en deux ou trois fois, il a, d'après ce que j'ai lu, 30 récompenses à peu près. Non, 30, et comme ça. J'ai oublié exactement combien. Mais ce que je sais, c'est, s'il le tue la première fois, il a 100 hasanat. Donc ce n'est pas ça le dab, ce n'est pas le lézard. Regardez. Surtout au Sahara, en Algérie, il y a une sorte de lézard, une sorte de lézard, mais plus grand. Il fait presque 40 centimètres. Grand comme ça, qui ressemble à un lézard, mais il est assez grand, et moi je l'ai vu autrefois, même certaines familles le mettent dans le maison, il la parure, il l'accroche comme ça contre les murs, sur le mur. Après, l'avoir dépiécé, bien sûr, et le remplir de je ne sais pas quoi, ils le mettent comme ça, et un ishbah. Mais ça, ce n'est pas un lézard. Ou alors, disons, c'est un grand lézard. Mais il a sûrement un nom en français. On cherchera, Inch'Allah Ta'ala, son nom en français. Taïb, est-ce que Dua Safar peut être dite pour nos trajets domestiques en voiture? Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire un trajet domestique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire un trajet domestique? Trajet quotidien. Naam, si quelqu'un fait un long trajet, par exemple de 80 km chaque jour, c'est un safar. Il peut même raccourcir sa prière. même s'il le fait chaque jour. Naam, s'il le fait chaque jour, il va loin. Naam, c'est un safar. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen Lahirmo a dit pour la femme qui lui a demandé, des fois je sors de ma ville vers une ville yani proche, aux alentours. Est-ce que je dois avoir un mahram? Il a dit non, ce n'est pas un voyage. Tu peux y aller sans mahram, d'une ville à une ville qui est proche de ta ville. Pourquoi? Ce n'est pas un voyage tant que les villes sont collées entre elles. Naam. Mais de 80 km, pas obligatoirement. 80 km, pas obligatoirement. Le prophète alayhi salam a laissé la chose en général. Naam. Il n'a pas dit il faut que ça soit 80 km. C'est le rite malikite qui a dit 82 km et aussi la fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui a dit 80 km. Mais si tu veux te baser sur cette fatwa et dire que à partir de 80 km, je me dis je suis dans un voyage et moins de 80, je ne suis pas, tu es libre car tu n'as pas pris une chose de ta tête, tu t'es basé sur une fatwa d'un grand alim. Naam. Prochain inchallah, hayakallah tafadhal.
Entre parenthèses, de la belle famille en islam. Doit-on les visiter si l'un des conjoints s'en excuse, ne veut visiter la belle famille, est-il en tort? Barakallahu fikoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Visiter, rendre visite chez les conjoints. Pardon, c'est pas les conjoints. Chez la belle famille, pardon. Que ça soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, n'est pas une chose obligatoire. C'est une chose conseillée, c'est tout. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Naam. Il a dit, soyez bien avec elles dans le ma'ruf. Ma'ruf, les choses, yani, qui sont connues de tout le monde, etc., qui sont, yani, qui ne contradisent pas la charia. La femme aime que son mari, subhanallah l'adim, respecte sa mère et son père et ses frères et soit bien avec sa famille. Naam, ça lui plaît. Naam, elle voudrait qu'il soit bien avec sa mère, son père, qu'il les respecte, qu'il ceci, qu'il cela. Ça lui fait plaisir à elle. Donc, faire cette chose, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans ce bien se comporter avec sa femme. Et la femme aime bien aussi que la mère de son mari, elle aime que, parce qu'elle sait que son mari aime, qu'elle respecte sa mère et son père, et comme ça. Donc elle, quand elle fait ces choses, ça rentre dans le bon comportement avec le mari. Mais ce ne sont pas des choses obligatoires. Ça rentre dans le bon comportement. C'est pour ça que, quand il y a des choses qui tournent mal, etc., on prend avec douceur, avec sagesse, avec hikma, un peu de distance jusqu'à ce que les choses aillent bien. Inch'Allah ta'ala. Naam. On prend un peu de distance et on se suffit au téléphone par exemple pour ne pas rompre les liens et voir yani, jusqu'à ce qu'on essaye de se réconcilier bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, l'homme n'a pas le droit de, comment on dit ça en arabe, yemna, comment on dit yemna, d'interdire à la femme d'aller chez sa famille. L'homme n'a pas le droit d'interdire à sa femme d'aller chez sa famille, sauf si elle exagère. Maintenant, si elle passe, 20 jours chez ses parents à elle et 10 jours avec son mari, celui-là, il peut lui dire, moi je t'interdis d'aller chez toi, ou alors il vaut mieux qu'on se sépare. Car toi, tu n'es pas marié avec moi, toi tu vis toujours chez tes parents. Non. Si chaque semaine elle lui dit, il faut que j'aille passer la nuit chez mes parents, chaque semaine, 2-3 jours, ça, ce n'est pas ce qu'a dit l'islam. Mais à chaque fois qu'elles ont le besoin d'aller chez ses parents, Touchetom, ils sont malades, il y a un urs, il y a une fête, il y a ceci, il y a cela. Il n'a pas le droit de l'empêcher, bi'idhn la azawjan, sauf s'il sait que, si elle va là-bas, il sait que, par exemple, sa mère va la remplir, sa mère fait de la sorcellerie, sa mère fait ceci. Dans ce cas, il ne la laisse partir que quand elle est dans le besoin. Sa mère est malade, sa mère a fait une fête, ceci, cela. Elle est dans le besoin, c'est tout. Sinon, il n'a pas le droit de l'empêcher. Wallahu ta'ala a'lam. Saïd 524,
tafadal. Tout d'abord, il y avait El Saouri qui avait perdu sa place. Khair, Inch'Allah, il posera après sa question. Donc, salamu alaykoum, Cheikh. Dois-je faire Hijra alors que ma mère est musulmane, mais elle est divorcée, donc elle est seule, et que moi je suis malade, je dois prendre des médicaments. La Hijra m'est obligatoire dans ma situation. C'est hors sujet, excusez-moi. Barakallahu fik.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, quand ma mère est seule et qu'elle a besoin de moi et que si je pars, il n'y a que moi et il n'y a personne qui pour la travailler, pour lui acheter, pour lui donner, pour ceci, je dois bi'idhna ta'ala rester avec elle. J'essaie de la convaincre pour qu'elle parte. Mais si elle veut pas partir ou elle a elle aussi des excuses et je suis le seul, je dis bien le seul. Elle n'a ni mari, ni un frère, un autre frère, ni personne avec elle dans la maison. Naam. Quant aux médicaments, je n'ai pas compris. Je dois prendre les médicaments. Les médicaments, on peut les prendre aussi en Algérie ou au Maroc. Je n'ai pas compris pourquoi il a dit les médicaments. Les médicaments, ils sont dans ma poche. Je les prends au Maroc, au Soudan, en Angleterre, où je suis, je prends les médicaments. Je sais pas pourquoi il a dit que je prends les médicaments. Il a dit, je n'ai pas compris. Tayyib, tfadhal, thawri, hayyakallah, tfadhal, est-ce que tu es là? Tu as perdu ta place, tfadhal.
Salamu alaykoum. Si le mari autorise sa femme de voyager seule, a-t-elle le droit de voyager seule?
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, si le mari autorise la femme à voyager seule, elle n'a pas le droit de voyager seule. C'est pour ça que certaines femmes se trompent quand elles épilent ses sourcils. On lui dit pourquoi tu as épilé, tu sais que c'est haram, tu sais que tu es maudite, tu sais que si tu meurs, c'est très grave pour toi. Elle dit pardon, j'ai demandé à mon mari, et il m'a dit ça fait rien. Tu peux épiler. Au contraire, comme ça tu es plus belle. Ah, elle croit que son mari, yani, et on fait passer ce qu'a dit le mari avant ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit à la femme, il faut pas épiler. Et le mari dit, non, il faut épiler, ça ne fait rien. Et elle laisse ce qu'a dit Allah, et elle va faire ce qu'a dit le mari. Subhanallah l'adim. En ce sens, beaucoup de sœurs aussi se trompent. Inch'Allah ta'ala, elles se trompent et elles font pas exprès. Quand leur mari, qui veulent faire le haram avec elles. Le mari, des fois, il voit des choses indécentes à la télévision. Il voit des choses de haram. Ensuite, il est quoi? Il est excité. Alors, maintenant, il a sa femme devant lui. Il veut faire le haram avec elle, des choses qui sont haram. Et elle, qu'est-ce qu'elle se dit? Ou bien lui, il lui dit. Il lui dit, n'oublie pas que nous sommes mariés et que c'est ton mari qui t'a dit de faire cette chose. Par exemple, a'oudou billah, la sodomie. Ah, il te dit, c'est moi qui t'a dit. C'est pas toi qui choisis cette chose. Moi, je suis ton mari, subhanallah, on doit obéir à son mari. Et elle le laisse faire cette chose, a'oudou billah. Non, elle croit que yani, obéir à son mari, on obéit comme ça, aveuglément. Alors que, dans un cas pareil, elle lui dit, taqidla subhanahu wa ta'ala, ou bien j'en divorce, tu choisis. Le divorce, ou bien taqidla subhanahu wa ta'ala, et fais le halal, ne fais pas le haram. S'il dit non, je fais cette chose, elle téléphone à son père, elle lui dit, viens me prendre chez toi pour me divorcer de cet animal avec lequel je vis. Et elle demande le divorce. Naam. Tfadal, inshallah ta'ala, Muslimina.
Cher, tout d'abord, il y avait un mot Mourad. Donc, salam alaykoum wa rahmatullah. Un frère a prêté de l'argent à un autre frère en euros. Peut-il lui rendre dans une autre devise? Exemple, livre sterling. Et quel est la meilleure, et quel est le meilleur moment pour donner la dot? Barakallahu fik.
Quand quelqu'un prête de l'argent à une autre personne, elle doit le lui rendre dans la même monnaie. Si je te prête des dinars kuwaitiens, tu me rends des dinars kuwaitiens. Si je te prête des livres sterling, tu me rends des livres sterling. Mais, dans le cas où on est dans le besoin, par exemple, je donne un exemple, c'est simple, là, je donne un exemple. Je suis en France, j'ai prêté à quelqu'un 1000 euros. Ensuite, cette personne est partie en Algérie et moi, j'ai rencontré cette personne en Algérie. Je lui dis, par exemple, rends-moi les 1000 euros. Il me dit, oh là, je n'ai pas, j'ai seulement du dinar. Naam. Dans ce cas, je peux prendre de lui le dinar à condition de deux choses. Deux conditions. La première, qu'il me donne cash. Il ne me donne pas 200 euros. Il me dit, les 800, je te donne après. Il me donne cash. 1000 euros, il va les rendre en algérien. Il me le donne maintenant cash. Deuxième condition, il doit me les donner en algérien d'après le cours d'aujourd'hui. Naam, aujourd'hui, on va téléphoner à la banque et voir combien fait l'euro en dinar. Ce n'est pas d'après le cours du jour où je t'ai donné, il y a un an ou là, il y a deux ans. Aujourd'hui, même si je vais gagner ou je vais perdre, je ne sais pas. Il se peut que je gagne, il se peut que je perde. Naam. Mais l'essentiel, c'est quoi? Le cours du jour. Naam. Wallahu ta'ala alam. Mais de préférence, pour sortir des machakil, je lui rends d'après sa monnaie. Mais si je veux lui rendre d'après ma monnaie, je dois remplir les deux conditions. Tafadhal inshallah le prochain. Car j'ai oublié de dire que Cheikh Al-Albani Allah rahmo a dit hadith bon ou bien sahih que Abdullah ibn Omar faisait cette chose, c'est-à-dire il donnait il prêtait des dinars et il prenait à la place le dirham. Il donnait le dinar et prenait le dirham. Naam. Cheikh Al-Uthaymeen Allah rahmo a dit à condition que ça soit le même jour et avec le cours du jour. Tafadhal.
Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatoum. Si un homme et une femme divorcent, car la femme ne voulait plus rester avec son mari, car elle négligeait sa religion, le mariage n'a duré que quelques mois, mais a été consommé. L'homme doit de l'argent à cette femme, mais ne veut pas lui rendre, et demande à la femme de lui rendre si elle lui rend sa dot. En a-t-il le droit? Barakallahu fikoum.
Alaykoum salam. J'ai oublié de répondre à la question de tout à l'heure en ce qui concerne la dot. En ce qui concerne la dot. Naam. La dot, cela dépend de la fille, de la femme. La femme en islam, peut-être les femmes ne connaissent pas cela, la femme en islam a le droit, écoutez bien ce que je dis, a le droit de ne pas se donner au mari s'il n'a pas donné sa dot. Naam. En islam, elle a le droit, elle dit, je ne consomme pas le mariage jusqu'à ce que tu me donnes la dot. Je vais rester comme ça 5 ans, 10 ans, je ne consomme pas le mariage. Tu ne m'as pas donné la dot. C'est son droit. Mais si elle veut, elle consomme le mariage et elle attend le jour où il la lui donne. D'après, elle, si elle veut lui dire dans 5 ans, je t'attends dans 10 ans. Non, mais il y en a même qui meurent, qui n'ont pas donné la dot. Mais si elle veut, elle ne consent pas le mariage jusqu'à ce qu'il lui donne la dot. Et bien sûr, de préférence, il la lui donne l'année avant de rentrer. Mais il est possible qu'il la donne après. L'essentiel, c'est que quoi? Il faut qu'il donne la dot un jour ou l'autre. Non. Autre chose pour la dot que les femmes ne savent pas. Par exemple, une femme a dit à un homme, ma dot, par exemple, c'est 1000 euros. Par exemple, Naam. Entre parenthèses, je vous dis que la dot de nos jours, si on compare avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 187 grammes d'or. 187 grammes en or. Je ne sais pas combien ça donne d'euros. El Mohim, supposons qu'une femme ait dit à son mari, ma dot c'est de, par exemple, 5000 euros. 5000. Naam. Et ensuite, après avoir consommé le mariage, par exemple, il n'a donné que 2000. Elle lui dit, je me désiste des autres 3000. C'est son droit. Elle peut. Ou bien, il n'a encore rien donné. Et ils ont consommé le mariage, il n'a encore rien donné. Elle lui dit, je sais que 5000 c'est beaucoup. Khlas, donne-moi seulement 500. Elle peut. Mais je ne sais pas s'il y a qui font cela. Il faut chercher. De toute façon, c'est son droit. Si elle ne veut pas se désister, c'est Allah Ta'ala qui lui a donné ça. Mais si elle veut se désister, il ne prend qu'une petite partie, elle est libre si elle veut aider son mari. Naam. Tayyib, maintenant, c'est quoi la question? Si un homme et une femme divorcent, car la femme ne voulait plus rester avec son mari, car il négligeait sa religion. Le mariage n'a duré quelques mois, mais a été consommé. L'homme doit de l'argent à cette femme, mais ne veut pas lui rendre. Il demande à la femme de lui rendre si elle lui rend sa dot. En a-t-il le droit? Attendez, j'ai pas compris cette phrase. L'homme doit de l'argent à cette femme, mais ne veut pas lui rendre. Elle dit, je l'ai compris. La femme lui a prêté de l'argent, il ne l'a pas rendu. Mais il demande à la femme de lui rendre, si elle lui rend sa dot. A-t-il le droit? Il demande à la femme de lui rendre. L'homme dit à la femme qu'il va lui rendre. Ah, Naam. Chefti, c'est toi qui as mal formulé. Naam. Il accepte de lui rendre son argent à condition qu'elle lui rende la dot. Naam. La réponse, il n'a pas le droit de faire cette condition. Car, en islam, si l'homme divorce une femme, il n'a pas le droit de lui dire, rends-moi la dot. Naam. Mais si la femme a fait le khula, si la femme, c'est elle qui a demandé la séparation, elle lui dit, on se sépare, dans ce cas, elle doit lui rendre la dot. Naam. Si la femme se sépare, c'est elle qui dit, je voudrais qu'on se sépare. Dans ce cas, elle doit lui rendre la dot. Maintenant, je ne sais pas si c'est elle qui s'est séparée ou là, c'est lui. Elle dit, divorce, ceux-là, ils ont divorcé. Si c'est lui qui divorce, elle ne rend pas la dot. Mais si c'est elle qui dit, je ne veux plus vivre avec toi, Naam, elle lui rend la dot et elle se sépare de lui. Naam. Tafadla, Inch'Allah, le prochain.
Salam alaykoum. Afwan, ma question est hors sujet, mais c'est urgent, c'est pour ma mère. Barakallahu fik. Ma mère va accomplir le Hajj cette année, Inch'Allah, mais elle a des problèmes de santé tels que le diabète, incontinence permanente, arthrose. Est-ce qu'elle est excusée pour ne pas faire, sinon, est-ce qu'elle peut porter des protections sachant qu'elle ne sera pas propre? Barakallahu fik.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non. Elle est excusée si elle a une incontinence et elle va mettre comme des couches. Non. À chaque fois que c'est le moment, par exemple, de la prière, elle les jette et elle fait la prière, même s'il y a, par exemple, de l'urine qui descend d'elle, ce n'est pas grave. Non. Celui qui ne va pas au Hajj, c'est celui qui ne peut pas, Naam, au point où, yani, il ne peut pas, il est alité. Il reste dans le lit, il ne peut pas quitter son lit. C'est pour ça que si vous allez au Hajj, et que Allah Azza wa Jal vous fasse aller au Hajj, Amin Ya Rabbi Alamin, si vous allez au Hajj, vous allez remarquer là-bas que vous trouverez des milliers, c'est pas des centaines, des milliers de gens qui sont venus faire le Hajj sur la chaise roulante. ils sont sur la chaise, assis, et les gens en train de les pousser autour de la Kaaba, dans Safa ou le Marwa, et comme ça, subhanallah l'adim. Celui qui est assis sur une chaise roulante, sûrement qu'il est malade, même très malade, naam, et vieux, et 80 ans, etc. Et, masha'Allah, il est là sur la chaise roulante, et il fait son hajj. Donc, ce n'est pas grave, inshallah ta'ala, pour elle. Naam, elle met des couches, et elle est excusée. Ça n'a rien à voir d'incontinence à dire. Inshallah ta'ala, fika barakallah. Kitab wa sunnah, hayakallah, tafadhal.
Assalamu alaykum. Hayakum Allah, barakallahu fik, pour tout ce que vous faites, Cheikh. Voilà une sœur, a les oreilles vraiment décollées à tel point qu'elle n'ose pas les montrer. Et elle est très complexée par cela. Cette sœur veut utiliser la chirurgie esthétique pour les recoller. Peut-elle faire afin de plaire, Inch'Allah, à son futur mari?
Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à cette sœur et à tous ceux qui sont en train d'entendre que une personne, quand elle a un défaut, naam, de sorte que ce défaut n'est pas chez les autres. Naam, quand on voit une personne normale, elle n'a pas ce défaut. Mais que moi, j'ai cette chose qui me fait différencier des autres. Comme dans ce cas, par exemple. Naam. Alors, il lui est permis de faire de l'esthétique pour les recoller. C'est une esthétique qui s'appelle naam, réparatrice. Réparatrice. Quelqu'un qui a une bosse dans son dos, naam, il n'est pas naturel comme tout le monde. Il l'enlève avec l'esthétique. Quelqu'un qui a 6 doigts, subhanallah l'adem, tout le monde a 5 doigts. Moi j'ai 6 doigts, ça fait un peu bizarre. Et je suis complexé devant les gens. Je peux enlever ce doigt, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, la yarhamou. Naam, quelqu'un qui a, enfin, un défaut. Chacun yani, a ses propres défauts. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Mad'un, il a fait dans une bataille, son nez. Comment qu'on dit, on lui a coupé le nez, c'est pas coupé. On lui a, avec une épée, bien sûr, sans le vouloir. Naam, il était dans une bataille, il faisait le djihad. Naam, c'est pas coupé le nez. Naam, son nez, c'est... Enfin, en arabe. Taqatta'a anfu. Naam. Donc, il était son nez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a conseillé qu'il mette un nez en or. Un nez en or. Et c'est ce qu'il a mis, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, cette chose, c'était un défaut. Ne pas avoir un nez. C'est un défaut, subhanallah l'adim. Du reste, son nez, alors il a fait l'esthétique d'autrefois. Autrefois, il a fait quoi? Il a fait un nez en or. C'est tout ce qu'on pouvait faire. La même chose pour la personne qui est, par exemple, on lui a amputé. Naam, à peu près amputé. Amputé, c'est beaucoup pour les mains et les pieds, mais ça ne fait rien. On lui a amputé son nez. Naam, on lui a coupé son nez. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire, c'était mettre un nez en or, comme lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui est, par exemple, chauve, elle peut, inshallah ta'ala, elle peut quoi? Elle peut faire une esthétique pour qu'on lui plante, des cheveux. Naam, elle peut faire l'esthétique pour qu'on lui plante des cheveux. Car c'est difficile d'être chauve, beaucoup plus, par exemple, pour une femme qu'un homme. Naam, l'or n'est-il pas interdit pour les hommes? L'or est interdit pour les hommes quand c'est parure et non pas comme c'est soins et guérisons. Naam, l'homme, pour lui, l'or est interdit quand c'est de la parure. Naam, et il est licite quand c'est pour des soins et une guérison. Par exemple, j'ai par exemple un bras cassé. Maintenant, ils doivent me mettre quelque chose à l'intérieur de l'os, ou là, à la place de l'os. Et le spécialiste, le médecin, a décidé que il devait me mettre quelque chose en or à l'intérieur. Il peut le faire, parce que ce n'est pas une parure, c'est un soin, comme le prophète alayhi salatu wasalam a conseillé à cette personne de mettre un nez en or. Le hadith, il est dans le Bukhari. Tafadhal, inshallah, la prochaine personne. On va pas tarder, inshallah. Tafadhal.
Muslima, si vous êtes là, tapez inshallah. Abu Asya, inshallah. Assalamu alaykum. Une sœur a un fils de 15 ans qui désire se marier avec une jeune fille. Il ne travaille pas et dépend financièrement de ses parents. Est-ce qu'il est conseillé de se marier dans ce cas ou est-il mieux d'attendre? Nous savons aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à celui qui a la capacité de se marier. Mais quels sont les critères pour être considéré comme quelqu'un qui a la capacité de se marier pour l'homme? Barakallahu fikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. S'il a 15 ans et qu'il veut se marier, nam, il est possible qu'il se marie. Si maintenant il est assez conscient et sait ce que c'est le mariage. Et ce n'est pas comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il croit que c'est seulement, il va assouvir ses passions, ensuite il va dire à la fille, va chez tes parents. Nam, alhamdoulilah, j'ai fait ce que je voulais, maintenant va chez tes parents. Mais je dis, s'il est assez conscient, et c'est ce que c'est le mariage, et que il remplit les autres conditions. C'est quoi les conditions, les autres? Elle demande ici. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Il faut qu'il ait la condition de pouvoir faire yani ce que fait l'homme avec la femme, et deuxièmement, d'avoir aussi, par exemple, de quoi la nourrir, ou l'habiter, ou la faire habiter. Naam, de quoi lui acheter ses vêtements. Et comme ça, quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple, comment qu'il va se marier? Le lendemain, ils vont se lever pour prendre le café, il n'a pas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de café, il n'y a ni pain, ni rien. Comment qu'il veut se marier? Il n'a pas de maison. Où est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poser une tente. Ils vont dans le jardin, ils vont mettre une tente. Ils vont vivre à l'intérieur de la tente. Il faut qu'ils remplissent les conditions pour se marier. Maintenant, si les parents de ce jeune de 15 ans veulent lui faire chaque mois, ils lui donnent une paye jusqu'à ce qu'il trouve le travail. Ils sont libres. Ils veulent marier leur fils. Ils vont l'aider jusqu'à ce qu'il marie. Ils sont libres. Non. Mais sinon, ils n'ont pas. Ils lui disent, voilà mon fils, on voudrait bien te marier pour préserver ta chasteté, mais il y a ni de quoi nourrir ta fille. Pardon, ta femme elle est, et où est-ce que tu vas la faire habiter? Tu sais que il n'y a pas de place chez nous, on est nombreux, on est ceci, on est cela, et le convaincre, inshallah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadla, inshallah, le prochain.
Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Bayakhaki dit, d'après une parole de Aisha radiallahu anha, qu'on doit couper le pain avec les mains, mais pas un couteau. Mais Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, dit que c'est faux et que cela ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a raison dans cela? C'est hors sujet, sauf qu'il y a du pain au mariage avec de la charba. Barakallahu fik.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, ce hadith n'est pas sahih. Car si on se basait sur ce hadith, donc il est interdit d'employer le couteau. Or, ceci se contredit avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit quoi? C'est dans le Bukhari, qui dit qu'il était en train de manger de l'épaule d'un mouton, et qu'il tenait un couteau dans sa main. Ensuite, il a entendu l'adhan, il a délaissé le couteau, et il est parti faire la salat. Donc, c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un couteau. Donc employer le couteau n'est pas interdit, bidnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, donc il n'y a pas exception pour le pain. Naam, il n'y a pas exception. Comme tu peux l'employer pour le pain, la viande, tu peux l'employer pour le pain et pour les fruits. Naam. tu nous as fait penser à la shorba. La shorba du mariage. Naam. Mais il y a certains gens qui, quand ils font la shorba, je ne sais pas comment qu'ils font, et ils font quoi? Ils mettent beaucoup d'huile. Ils mettent beaucoup d'huile de façon à ce que tu trouves l'huile qui se met en haut. Quand tu veux manger, tu trouves l'huile toujours avec toi dans la cuillère. Naam. Ça, bidna ta'ala, j'aime pas. Si Inch'Allah ta'ala vous allez m'inviter à votre mariage, ne mettez pas beaucoup d'huile. Naam. Mettez beaucoup de viande plutôt que de l'huile. Mettez beaucoup de viande. De toute façon, il y a une chose que j'ai beaucoup entendu de ma mère et des femmes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce n'est pas n'importe quelle femme qui réussit la shorba. Wallah. C'est pour ça que plusieurs fois j'entends ma mère dire que X, en citant une femme, que elle sait faire la shorba. Naam. C'est pas toutes les femmes, elles réussissent dans la shorba. Naam. D'accord. Jazakallah, frère. Tfadlan. Le prochain salat, tfadlan. Pour ne pas perdre de temps, inshallah, attendez, j'ai oublié d'enlever le rouge. Tfadlan, din islam. Inshallah ta'ala, on termine la dernière demi-heure. Et ce sera 2h du matin. Allahu Akbar.
Salam alaykoum, cher. Si une femme qui a des enfants se remarie, est-ce que sa fille, qui est déjà mariée, peut-elle se dévoiler devant le beau-père? Peut-elle lui serrer la main?
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Quand une femme se marie, naam, quand une femme se marie avec un homme, cet homme, jamais ou grand jamais, ne peut épouser l'une de quoi? De ses filles. Ni peut épouser sa mère ou sa grand-mère après le divorce ou après la mort de sa femme. Donc, quand un homme se marie avec une femme, la fille de la femme, ça s'appelle en arabe une rabiba. Rabaibukum allati fi hujurikum. C'est une rabiba. Jamais le mari de sa mère ne peut se marier avec elle. Donc elle peut se dévoiler devant lui et lui serrer la main et rester en tête à tête avec lui. Naam. Sauf entre parenthèses, s'il est vicieux. S'il est vicieux, elle l'évite. Naam. Est-ce qu'on peut appeler un enfant Ryan? Je n'ai jamais lu qu'il était interdit de l'appeler ainsi. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le beau-père. Si une femme qui a des enfants se remarie, est-ce que sa fille qui est déjà mariée peut-elle se dévoiler devant le beau-père? Moi, je vous ai dit, je n'ai jusqu'à présent pas encore compris c'est qui le beau-père. Ce que je sais depuis que j'étais enfant, le beau-père, c'est qui? C'est ma femme. Ma femme, quand elle parle de mon père, elle dit c'est le beau-père. Maintenant, le beau-père, c'est qui? C'est le nouveau mari. Le nouveau mari de la mère. Et naam, le nouveau mari de la mère. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Subhanallah, et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, quand une femme se marie avec un homme, elle va se marier, c'est-à-dire la deuxième fois, et elle a une fille, son mari ne peut pas épouser sa fille à elle. Naam, c'est une rabiba. Vous m'avez pas compris? Une femme. Je vais donner un exemple. Naam, vous avez compris? Alhamdulillah. Une femme qui s'appelle Nadia. Nadia s'est mariée avec Mohammed. Et Nadia a une fille qui s'appelle Khadija. Nadia s'est mariée avec Mohammed. Et Nadia a une fille qui s'appelle Khadija. Mohammed ne peut jamais épouser Khadija. Donc Khadija peut se dévoiler devant Mohammed et lui toucher la main. Alhamdulillah. Naam. Tafadla, Inch'Allah, le prochain. On voit pas la question. Mhafousa, on voit pas la question. Tayyib, le suivant. Inch'Allah, le temps que la sœur coupe sa question. Tafadla, Inch'Allah, le prochain.
Salam alaykoum. J'ai une sorte de maladie de peau. J'ai des plaques sur certains endroits du corps et les médecins ne savent pas trop ce que c'est. Je dois faire des examens médicaux et l'on m'a proposé de faire des photographies des endroits où j'avais des plaques, sans que l'on voit mon visage, afin que les médecins se concertent et donnent leurs avis. Ces photographies pourront servir à des étudiants en dermatologie et être publiées dans des magazines médicaux. Je voudrais savoir si je pouvais les faire ou pas, sachant qu'elles peuvent être utiles pour cerner mon problème de santé. Barakallahu fikoum. Entre parenthèses, les photographies seront mes avant-bras et le haut de mon buste.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Astaghfirullah wa toubou alayh. Cette question, inshallah ta'ala, je te répondrai bidna ta'ala mercredi. Parce que c'est une question assez difficile, bidna subhanahu wa ta'ala. Je dois demander à des gens qui, peut-être aussi, eux, demanderont à des ulamas. Je sais que si c'était pas la awra, ça aurait été facile la réponse. Si c'était un homme, par exemple, qui allait se photographier, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça aidera beaucoup. Mais une femme, maintenant, on va voir une partie de son corps. On va voir son buste. Naam. Est-ce que ça rentre dans le besoin ou ça ne rentre pas? Ça va être dans des magazines médicaux, etc. Je devrais, Inch'Allah ta'ala, demander. J'ai comme un pressentiment que c'est non. Mais je voudrais d'abord demander. Naam, naam, seulement conseiller. Naam, je vais écrire d'abord. Inch'Allah ta'ala. Fadal, Inch'Allah, le prochain. Amatul haq. Si Inch'Allah ta'ala, tu estimes que ce n'est pas nécessaire, naam. Il vaut mieux ne pas le faire. Naam, il vaut mieux ne pas le faire. Car ce n'est pas quelque chose d'obligé. Naam, ce n'est pas quelque chose d'obligé. Et, subhanallah al-azim, ton corps, Cheikh, la maladie se propage. Naam, la maladie se propage, mais ils ne sont pas obligés de prendre une femme. Pourquoi ils ne prennent pas un homme? Pourquoi ils ne prennent pas un homme qui a cette maladie? Pourquoi ils ne prennent pas un homme qui a cette maladie? Mais Inch'Allah ta'ala, d'ici mercredi, Inch'Allah, tu auras la réponse. Le prochain dars du mercredi, Inch'Allah, tu auras la réponse. Naam, Inch'Allah ta'ala, piki barakallah. Une sur dix, est-ce qu'on peut faire qiyam l'île après l'huit? Naam. Quand quelqu'un, Inch'Allah ta'ala, a fait qiyam l'île, a fait salat l'huit, de préférence que, yani, il fasse de du witr la dernière salat. De préférence qu'il fasse du witr la dernière salat. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ija'alu akhira salatikum witran. Naam. Maintenant, s'il veut faire qiyam al-lil, de préférence qu'il ne fasse pas le witr. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Pardon, inshallah, le prochain. Et bon, on perd beaucoup de temps. C'est à qui la question maintenant? Ou Medina, t'as fait d'aller. Nenna, Mana 8. Mana 8, où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. Pour lui donner sa place. Où est-ce qu'elle est, Mana 8? Est-ce qu'elle est là? Pour lui donner sa place, parce qu'elle a perdu sa place. Vers le bas. Il faut qu'elle lève la main. Naam, je la vois. Tayyib, Mana 8. Pose ta question, Inch'Allah, tu n'as pas le rouge.
Salam alaykoum. Voilà, ce mois-ci, j'ai eu comme des menstrues, mais en avance par rapport à d'habitude. Donc je n'ai pas fait salat. Cependant, les écoulements n'étaient pas comme d'habitude. Je n'avais que des taches noires ou un peu rouges, mais pas d'écoulements. Dois-je rattraper mes salats?
En principe, Inch'Allah ta'ala, tu dois rattraper les salats parce que... Naam. Les menstrues, quand c'est leur début des tâches, etc., on arrête, mais on attend qu'il y ait écoulement. Non, mais on attend qu'il y ait écoulement. Maintenant, si les tâches s'arrêtent, et deux jours ou là, trois jours après, ou là, quatre jours, j'ai les écoulements. Et deux ou trois ou quatre jours, il n'y a rien eu. Ça veut dire que ce n'est pas les menstrues. Mais si des tâches commencent avec la femme, et les tâches ne s'arrêtent pas et sont suivies d'écoulement, donc ces tâches, ce sont les menstrues. Je répète, pour toi et pour celles qui ne savent pas bien cela. Quand une femme commence à avoir les tâches, ça commence par rose, rouge, noir, ça commence les tâches et que ça ne s'arrête pas. Ensuite, il y a écoulement. Deux jours, trois jours après, il y a écoulement, mais les tâches ne se sont pas arrêtées. ça c'est quoi? C'est des monstres. Mais si il y a des tâches, par exemple aujourd'hui, ensuite il n'y a rien. 2-3 jours, ensuite commencent les règles. Naam. Mais ça, ce ne sont pas les monstres. Mais si elles ont commencé, les règles, elles ont commencé, il y a eu l'écoulement, ensuite elles se sont arrêtées. 2-3 jours, il n'y a rien. Ensuite, il y a eu un peu d'écoulement. Pendant ces 2-3 jours où il n'y a rien eu, c'était sec, naam, ça doit être considéré comme monstrueux, même s'il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce qu'elle était en période de règles. En période de règles, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir les règles, d'avoir le sang, car on peut ne pas avoir le sang et être en règle. Mais l'essentiel, c'est que les règles ont commencé. Voilà. Elle dit donc qu'il faut obligatoirement un écoulement. Naam, pour les femmes qui ont des écoulements. Je ne crois pas qu'ils puissent avoir des règles sans écoulement. Naam. Du lundi au vendredi. Naam, tu rattrapes les salats. 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours, naam. Tu n'es pas obligé de les rattraper tous à la fois. Naam. Tu peux faire par exemple aujourd'hui un jour, demain un jour, et comme ça. Wallahu ta'ala a'lam. On passe au prochain, inshallah.
Salam alaykoum wa rahmatullah, cheikh. Lors du dernier cours du frère Abdelmalik Francis sur l'ornement précieux des époux vertueux, il parlait des défauts de la femme qu'il ne faut pas cacher à celui qui vous demande en mariage. J'aimerais savoir quels sont ces défauts ou les catégories de défauts à ne pas cacher à celui qui nous demande en mariage. Barakallahu fikum wa hafizakallahu ta'ala.
Salam alaikum wa rahmatullah. Naam. Les défauts, il y en a beaucoup. Naam, les défauts, il y en a beaucoup. On ne peut pas les compter. Moi, je peux avoir un défaut qu'il n'y a pas chez les autres. Un mohim, c'est ce défaut que je dois dire aux autres, que je dois dire aux prétendants. Naam. Il se peut, par exemple, que, naam, disons, qu'est-ce que je vais dire, par exemple, je vais donner un exemple. Je vais dire, par exemple, naam, subhanallah al-adim, même dans les parties intimes, des fois, des gens ont des défauts. Même des femmes, des fois des femmes. Naam, ça, c'est cité dans les livres de fiqh. Des fois, la femme, par exemple, a un défaut de façon à ce que son mari ne puisse pas faire la chose avec elle s'il se marie. Il ne peut pas faire la chose convenablement. C'est par exemple la chose est trop serrée, etc. Il ne peut pas faire. C'est bouché, c'est comme ça. Ça, c'est un grand défaut dans le mariage. C'est impossible que, yani, elle cache, c'est très interdit qu'elle cache une chose pareille. Naam, celle-là doit faire de la chirurgie avant de se marier. Naam, c'est impossible qu'elle se marie si c'est bouché comme ça, naam, de façon à ce qu'elle ne puisse rien faire. Et ça, c'est l'un des 4 défauts qui sont cités dans presque tous les livres du fiqh. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun a ses défauts. Quand quelqu'un a un défaut, c'est pas un défaut de caractère, ou là, non, un défaut, par exemple, une maladie, quelque chose, yani, quand, par exemple, quand l'homme voit la prétendante, il la voit en djilbab avec la tête cachée. Maintenant, il se peut que sous le djilbab, il y ait yani, beaucoup de défauts. Je donne un exemple très simple. Imaginez qu'une sœur, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, par exemple, elle avait le cancer et que son cancer était dans sa poitrine et qu'elle a été obligée, on lui a par exemple amputé l'un des deux seins. Naam. Ça arrive. Dans la plupart des cas, on le lui enlève. Naam. Maintenant, si elle va cacher ça à son mari, c'est vraiment c'est grave. Naam. Il va se marier et il va découvrir qu'elle n'a qu'un seul. Et avoir un seul, c'est vraiment un défaut. C'est bien sûr qaddar Allah, mais lui, si on lui avait dit ça, il ne serait jamais marié avec elle. Naam. Peut-être que Allah Ta'ala va lui faire venir un autre prétendant qui accepte. Mais elle ne doit pas cacher une chose pareille. Naam. C'est pour ça que les défauts changent d'une personne à l'autre. Mais en général, on doit dire les défauts qu'on a. les défauts, qui, si jamais l'homme les découvre, il peut nous divorcer. Ces défauts-là, on doit les dire. Fadlan, inshallah, le prochain.
Salam alaykum ya Cheikh. Mon mari et moi s'étons fait hijra au Maroc au début de l'année prochaine, inshallah, avec notre bébé. Cependant, mon mari va devoir revenir en France vers le mois de juin ou août pour faire une formation professionnelle et cela pour 3 mois. Dans ces conditions, est-ce que je peux revenir avec lui en France avec mon bébé car mon mari ne veut pas nous laisser seuls et pour ma part, j'ai peur de rester toute seule au Maroc sans mon mari. Barakallahu fik, Cheikh, pour tout ce que vous faites pour nous, qu'Allah vous agrée. Amin.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai posé cette question au frère Abdel Malik Ramadani Hafidahullah. Il a dit que le frère, c'est-à-dire le mari, n'a pas le droit de revenir en France pour faire ce que tu as dit ici, le stage ou la je ne sais pas quoi. Non, il a dit il doit le faire ce stage en Algérie. Sauf si vraiment yani, il est dans le besoin et que il n'y a pas où ça se fait. Il n'y a que la France où il peut faire ce stage. Pourquoi? Parce qu'en général, quand quelqu'un fait la hijra, il ne revient plus vers son pays. Il ne revient que yani, vraiment quand il est dans la daroura. Il y a une sœur de France qui est ici au Koweït depuis 3 ans. De temps en temps, elle va en France. Je ne sais pas ce qu'elle va faire là-bas. Cette fois, elle m'a dit par Allah que je ne vais plus revenir en France car je me sens munafiqa. Je me sens munafiqa. Moi, j'ai fait la hijra, je suis au Koweït et je reviens en France tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire là-bas ou là. Le RMI ou là je ne sais pas quoi. Il a dit par Allah cette fois, j'ai juré de ne plus mettre mes pieds en France car je me sens munafiqa. Quand quelqu'un quitte un pays, fait la hijra, il revient plus. Maintenant s'il revient pour maladie, pour ceci, il est excusé bien sûr. C'est pour ça que ce frère doit d'abord chercher s'il y a cette chose qui se fait dans un pays musulman. Si vraiment ça se fait pas dans un pays musulman, il n'a pas trouvé, alors dans ce cas, il est excusé. Et elle peut aller avec lui si elle est vraiment dans le besoin, elle a peur de rester seule, elle est peureuse, etc. Wallahu ta'ala a'lam. Fadlan le prochain, inshallah, il reste 2 ou 3 minutes.
Salam alaykoum, Cheikh. Un père a prêté à son gendre de l'argent. Aujourd'hui, sa fille est divorcée de cet homme, mais le père réclame l'argent à sa fille. Doit-elle le rembourser même si elle n'en a pas bénéficié? Des femmes peuvent-elles assister à des conférences dans la même pièce que des hommes, sans séparation, en étant assises derrière eux? Barakallahu fik, Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. On va voir à qui a prêté de l'argent ce père. Est-ce qu'il a prêté à son gendre? Ou bien l'a prêté à sa fille. S'il a prêté à son gendre, sa fille n'est pas obligée de lui rendre de l'argent à sa place son mari. Naam. Il n'a pas donné de l'argent à sa fille. Mais il a donné de l'argent à son gendre, c'est-à-dire au mari de sa fille. Donc, c'est le mari de sa fille qui doit lui rendre son argent et non pas sa fille. Mais, s'il avait prêté à sa fille, il lui avait dit, voilà, je te prête 1000 euros, etc. C'est elle qui doit lui rendre. Mais dans ce cas, c'est lui qui doit le rendre et non pas elle. Elle lui dit, cher père, je t'aime beaucoup, mais je te fais seulement souvenir que l'argent, ce n'est pas à moi que tu me les as donné. Et peut-être que si elle a fait ça, elle lui dit, c'est même pas moi qui t'avais dit de lui donner. C'est lui qui t'a contacté et t'a dit, prête-moi de l'argent. Donc c'est lui, Inch'Allah Ta'ala, qui doit te rendre, ce n'est pas moi. Naam. Les femmes peuvent-elles assister à des conférences dans la même pièce que des hommes sans séparation en étant assises derrière eux? Il faut d'abord que ça soit genre din, ce n'est pas n'importe quelle conférence. Ensuite, il faut que la salle soit vraiment grande, ce n'est pas une petite pièce. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes assistaient dans la mosquée derrière les hommes. Et il n'y avait pas ni rideau, ni barrière, ni mur, ni rien. Elles s'assiedaient derrière et elles écoutaient le dars. Mais les temps ont changé, la piété a diminué aussi, les fitnas sont devenues partout. Et maintenant, c'est pour ça que si la salle est petite, etc., il vaut mieux éviter ces choses si c'est une petite pièce. Mais si c'est une grande salle et qu'on est dans le besoin d'écouter un dars bénéfique, c'est plus ou moins permis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Fadlan encore une.
Salamu alaykoum. Un frère que je connais s'est marié à la commune belge et 2 mois après au consulat. Maintenant, il demande s'il fait le divorce en Belgique, entre parenthèses plus simple, est-ce satisfaisant ou doit-il divorcer au Maroc aussi? Barakallahu fikoum.
Franchement, je n'ai pas bien compris son cas. Naam. Un frère s'est marié en Belgique et 2 mois après au consulat. Quel consulat? De Belgique ou du Maroc? Maintenant, il demande. Il s'est marié au Maroc aussi. Naam. Maintenant, il demande s'il fait le divorce en Belgique. Est-ce satisfaisant ou doit-il divorcer au Maroc aussi? Naam. De toute façon, premièrement, je suis désolé pour ce divorce. Naam, inshallah, il faut le faire, c'est tout ce que je dis. En ce qui concerne le divorce, quand un homme dit à sa femme tu es divorcé, elle est divorcée. Qu'il dise cette phrase au Maroc, au Togo, ou là, au Venezuela, ça ne change rien. C'est pas obligé qu'il dise ça à la Belgique ni au Maroc. Où tu es? Même si ta femme ne t'entend pas. Imaginez, moi, ma femme est maintenant en Algérie. Si maintenant, j'ai la nia dans mon cœur de la divorcer. Et tout seul, je dis, je t'ai divorcé. Alors qu'elle est en Algérie, elle est divorcée. Subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Chérie, une personne qui était 5e au début a perdu sa place. Puis tout à l'heure, elle passe en demande. Naam, ishigo, tfadlan. Attends que je termine d'abord. Donc, maintenant, lui, s'il a divorcé sa femme, il avait l'intention dans le cœur, et il a dit, tu es divorcé, ou bien il a dit à elle, il lui a dit, tu es divorcé, elle est divorcée. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à faire des papiers, il divorce sur papier pour avoir, ses droits, et pour que tout le monde sache qu'il est divorcé, qu'il puisse se marier, etc. Non, il fait ça sur les papiers en Belgique, et il fait ça sur les papiers où il est, au Maroc, s'il a besoin de papiers. Maintenant, si... Ce n'est pas obligé. Ça dépend où il vit et est-ce qu'il a besoin de ses papiers. C'est sûr qu'il aura besoin de ses papiers, même pour elle, si elle n'a pas de papiers. Quelle est la preuve qu'elle est divorcée? Elle ne peut pas se marier avec un autre. C'est en ce sens qu'il fasse les papiers. Wallahu ta'ala a'lam. Mais l'essentiel, c'est de divorcer avec la bouche, la langue, disons. Jazakallahu khair. Tafadhal Ishigo.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si j'arrive à la 4e raka'a de Salat al-Isha, je rattrape comment? Je recommence à la 1ère raka'a. Et une femme, lors de la muqabala, peut-elle cacher qu'elle est plus vierge en jouant sur les mots du style certaines femmes naissent sans hymen ou l'ont perdu en faisant du sort en parachute, comme j'ai pu lire dans une fatwa? Barakallahu fik.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam, alhamdoulilah. Si j'arrive à la 4e raka'a dans la... Tu arrives à la 4e raka'a de la Isha. 4e raka'a. Mais tu ne m'as pas dit si tu as attrapé la 4e raka'a ou tu ne l'as pas attrapé. Non, tu ne m'as pas dit si tu as attrapé la quatrième raka, tu l'as attrapé, alhamdoulilah. Tu as attrapé la quatrième raka, tu l'as fait avec l'imam. Et l'imam dit salamu alaikum, assalamu alaikum. Et toi, tu te lèves, tu dis Allahu Akbar, tu te lèves. Tu vas lire à haute voix. À haute voix, tu dis alhamdoulilah, tu termines, tu dis par exemple, qul huwallahu ahad. Ensuite, tu te prosternes, tu t'inclines, tu te prosternes pour la deuxième raka. Ensuite, tu t'assois, tu fais le tashahhud. Tashahhud. Tahiyatullah, zakiyatullah, et comme ça. Ensuite, tu dis Allahu Akbar, tu te lèves. Tu ajoutes la troisième et la quatrième à voix basse. La troisième et la quatrième à voix basse. Et tu dis quoi? Tu dis salamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Maintenant, lors de la muqabala, peut-elle cacher qu'elle n'est plus vierge en jouant sur les mots. Naam. C'est ce que j'ai lu de la fatwa avec la fatwa de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah. Il a dit, naam, elle joue avec les mots. Elle ne va pas revenir au passé et raconter sa vie. Et j'ai connu X et j'ai connu Y et on a fait ceci, on a fait cela. Elle parle pas de ces choses. Naam. Le passé est pire. Si j'ai fait des fautes, elle lui dit, toi aussi tu en as fait. Tu n'es pas infaillible. Et je suis sûr que, astaghfirullah, toi aussi tu n'es pas vierge. Toi aussi tu as dû faire des choses. Naam. Bon, c'est pas Ubayd al-Jabiri qui a dit ça, c'est moi. Naam. Je disais que, elle joue avec les mots. Mais, au point de dire, j'ai fait un saut de parachute, elle dit, je ne sais pas si ça peut être accepté et s'il va croire ça. Naam. Si elle va lui dire, j'ai sauté par parachute, là, il va dire, j'ai affaire à une personne un peu bizarre. Elle-Mohim, ce que je veux dire, elle joue sur les mots. Elle n'est pas obligée de lui dire, voilà, elle peut feinter sans, elle feinte sans mentir. Sans mentir. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah al-azim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec 11 femmes. Ça? Des 11 femmes, seule une était vierge. Seule, subhanallah al-azim. 10 autres étaient quoi? Étaient déjà mariés. 9 des 10 étaient quoi? Étaient veuves. Subhanallah al-azim. Et une était mutallaqa. Et une était mutallaqa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est marié qu'à une vierge. Une seule. Je ne sais pas pourquoi il donne de l'importance à cette chose comme si c'était naam. Et surtout qu'en France, vous savez qu'en France et que dans les pays d'Europe, il est très difficile de tomber dans yani, une femme qui est toujours vierge et elle a dépassé 20 ans, etc. Naam, il est difficile et beaucoup de gens ou de sœurs ou là, yani, n'ont commencé à pratiquer que assez âgés. Et c'est pas de leur faute. Déjà, leurs parents ne pratiquaient pas. Il y a des sœurs qui, jusqu'à maintenant, elles pratiquent et leurs parents ne pratiquent pas. C'est déjà, alhamdoulilah, qu'elles soient déjà dans la pratique. Maintenant, toi, tu vas demander des choses, naam, qui dépassent un peu le raisonnement. Naam, regarde dans quel pays tu es et regarde à toi-même qu'est-ce que tu as fait avant de te marier. Ensuite, va demander, subhanallah al-azim, des conditions difficiles. Et naam, le repentir. Une femme qui a fait cela, et qui s'est repentie, et elle est là, elle applique le jilbab, mashallah, la salat, c'est comme si elle n'avait pas fait cela, alhamdoulilah. Allah Ta'ala lui pardonne, c'est comme si elle n'avait pas fait cela. Ensuite, toi, tu viens, tu ne pardonnes pas. Toi, tu pardonnes pas, tu dis non. Si elle n'est pas vierge, je ne me marie pas, moi je pardonne pas. Allah Ta'ala, il pardonne, c'est pas moi. Subhanallah al-Azim. Naam. Et toi, pourquoi tu t'oublies? Pourquoi toi, tu voudrais qu'on te pardonne? Pourquoi elle va te pardonner? Elle aussi, elle peut dire, je ne me marie pas avec cette personne. Il n'est pas vierge. Il a fait beaucoup de choses avant de se marier. Naam. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si j'ai dit juste, c'est Allah Ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit faux, c'est moi et c'est le shaitan. Et je commence à être fatigué parce que quand je me fatigue, je dis des mots à la place d'autres mots. Ce qu'on appelle en français des lapsus. Je commence à dire un mot. Si je continue comme ça, ceux qui vont aller au paradis, je vais vous dire, ils vont aller en enfer. Ceux qui vont en enfer, je vais dire, ils vont au paradis. Le halal, je vais dire, c'est haram. Donc, il vaut mieux que je vous quitte avant que je ne dise n'importe quoi. On se rencontre, inshallah ta'ala, aujourd'hui, c'est samedi. On se rencontre, inshallah ta'ala, c'est quand? Rappelle-moi, Wismak, Minhaj, rappelle-moi, c'est quand mon prochain dars? C'est lundi ou là, c'est mercredi? Maintenant, moi, je ne sais pas mes dars. C'est un délire que je dois vous quitter. C'est quand? Mercredi, donc il n'y a pas lundi, subhanallah al-adib, je croyais que j'avais lundi d'as.